Bon, prenez place. De toute façon, vous pourrez prendre la soupe quand vous le désirerez aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison Regour et tous nos remerciements spécialement à M. Regour qui nous accueille ici et qui nous offre la soupe. Nous lui avons apporté les légumes et ce magnifique local a été mis à notre disposition et la soupe aussi est à votre disposition. Donc merci encore à la maison Regour. C'est Laurent Rémès qui est là, qui assurera l'animation de la soirée. Laurent Rémès est jardinier, non, comment on dit ? Maraîcher bio à Livignac, donc Vallée du Lot, à côté de Cazeville. Donc, il se présentera lui-même et ses activités aussi. C'est dans le cadre de la soirée Manger Bio. Et donc, la soirée rentre dans le cadre général des Jeudis en question. Les Jeudis en question, c'est trois associations sur le vallon et de nombreux bénévoles par ailleurs, qui sont dans les associations ou en dehors, qui assure cette animation depuis maintenant un an. Et donc, nous en sommes à l'heure actuelle à la 12e ou 13e conférence. On a perdu le nombre. Conférence débat dans les cafés du Vallon. Cafés du Vallon, les uns après les autres. Il y a eu Marcillac, Novial, Clairvaux, Pruine, Salle-la-Source. Donc, nous naviguons. Et donc, ce soir, pour la première fois, nous sommes à Brijoul, brillamment donc accueillis. Les prochaines conférences, tous les derniers jeudis de chaque mois, donc nous sommes le 25 février, le 25 mars, ce sera sur le thème du travail. Vision philosophique du travail, doit-on perdre sa vie à la gagner ? Le thème suivant sera sur la naissance. Et donc, nous n'avons pas encore retenu de titre pour la naissance. Ça sera le jeudi 29 avril, dernier jeudi de chaque mois. L'exception sera pour le samedi 29 mai, où l'on essaye de mettre en place un thème sur la décroissance. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui, effectivement, est un spécialiste de la décroissance et qui veuille bien venir ici dans le Vallon, devant nous, dans un autre café. Et donc là, peut-être, comme on a prévu, peut-être un plus grand nombre, des gens de Rodez sont intéressés aussi à venir. Et donc, ça serait un samedi, ce sera donc l'exception des jeudis en question, le samedi 29 mai, sans doute, soit à la salle de Malviès, soit à la salle des fêtes de Marcillac, parce qu'on pense qu'il risque d'y avoir un peu plus de monde. Et le dernier jeudi de la saison, donc, sera le jeudi 24 juin, pour la Saint-Jean. L'eau coule-t-elle de source ? Et ça se passera à Salle-la-Source. Donc, ne manquez pas cela, c'est l'eau, le bien vital de l'humanité, sa mise sous séquestre par certaines grandes sociétés, puis aussi l'eau que nous avons à notre portée, et le respect qu'on lui doit. Je cède la parole à Julien. Julien va nous faire une petite revue de bibliographie sur le thème du manger bio et un peu écarté. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a un petit papier sur la table qui est là-bas, donc sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé par les thèmes des jeudis en question et par éventuellement connaître la préparation des jeudis en question. Vous indiquez sur cette feuille de papier votre nom, votre prénom, la commune d'où vous êtes et surtout votre adresse mail parce qu'on communique bien par l'intermédiaire des mails. Voilà. Un petit chapeau circulera à la fin de la réunion pour les différents frais Bon, puisque cette fois-ci, il y a eu des frais de soupe, même si le gros des frais de la soupe nous est offert par M. Rebaud. Voilà. Donc, Julien, à toi.
Pour parler de la soupe rapidement, donc elle est intégralement offerte par, par la famille Regourd, donc on les en remercie. Le chapeau, éventuellement, si on fait circuler un chapeau, servira pour nos faux frais, on va dire, d'impression et autres. Et peut-être pour investir dans l'avenir, notamment sur cette journée sur la décroissance, pour faire venir un ou plusieurs intervenants. Donc, pour revenir à la soupe... Juste, j'étais parti sur l'idée de me procurer des légumes bio pour cette soupe en essayant de faire le tour un peu des points de vente bio proches de chez nous, proches du Vallon. Donc, j'avais idéalisé quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc, j'avais l'intention d'aller au marché de Rodez. Ce que j'ai fait, malheureusement, ce jour-là, il n'y avait aucun producteur bio sur le marché. C'était une exception, je pense, mais bon, peut-être qu'on en rediscutera. En fait, c'est un détail, mais en général, sachez que sur le marché de Rodez, sur le marché d'Espalion, à Decazeville, je crois que c'est plus le cas. À Marcillac, c'est toujours pas le cas, mais en tout cas, il y a un certain nombre de marchés où vous pouvez trouver des producteurs bio, des légumes, s'entend. Ensuite, j'avais prévu d'aller au panier paysan, donc j'espère que vous connaissez le panier paysan, c'est pas très loin d'ici, c'est à Nus, c'est un magasin de producteurs, donc où vous trouvez un choix de légumes de saison, évidemment. Il est hors de question de commercialiser des légumes contre saison au panier paysan, évidemment. Peut-être qu'on parlera de ça tout à l'heure, de la saison, la saisonnalité des légumes, c'est quelque chose d'important. Puisque j'espère qu'on débordera du bio vers une agriculture écologique et responsable. C'est un sujet qui est lié au bio. Donc, pour revenir à ma soupe, le panier paysan ouvre du jeudi au samedi. Donc, organisez-vous pour ne pas avoir à faire une soupe pour le jeudi, puisqu'il fallait quand même que les légumes, la famille Regourd, les ait la veille. Donc, pas de panier paysan, pas de d'agriculteurs bio sur le marché de Rodez. Donc, il y a encore une troisième solution, c'est d'aller chez son épicier bio. Alors, il y en a un à Marcillac, c'est une chance. Notre canton est pourvu, il y a un épicier qui vient de reprendre le panier d'Alaïs, qui est très sympathique, qui démarre, mais qui est extrêmement motivé et qui connaît la provenance de ses légumes, même s'il passe par un grossiste. Donc, j'y suis allé, je vais acheter la plus grande partie des légumes que vous pouvez consommer ce soir. Chez Thierry au panier d'Alice. Donc la plupart des légumes en l'occurrence provenaient de la Manche. Les pommes de terre proviennent d'un producteur bio de rue Pérou qui s'appelle Monsieur Bou, je crois. Et peut-être une dernière piste pour se procurer des légumes bio, et ça c'est peut-être la plus économique, la plus simple, quoique onéreuse en temps de travail évidemment, c'est le jardin familial, à condition de n'utiliser aucun pesticide, évidemment. C'est le cas de la soupe de ce soir, puisque Hélène Dufossé a bien voulu nous offrir quelques légumes, des carottes, des panais et du céleri. Voilà. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour, après, évidemment, il y a les solutions. En dernier, des derniers recours, il y a des supermarché bio, je ne citerai pas le nom, et évidemment la grande distribution, mais là, autant vous dire que c'est quand même pas le bon parti, puisque on a quand même d'autres moyens de se procurer des légumes bio, à condition de s'organiser un tout petit peu, en espérant qu'un jour l'offre sera intégralement bio, comme ça on n'aura plus à se prendre la tête. Mais bon, c'est pas demain la veille. Voilà, pour ce qui est de la soupe que nous offre, encore une fois, et on les en remercie, la famille Regourd. Pour ce qui est des bouquins, il y a un livre qui recouvre le thème de ce soir, qui nous a un peu donné l'idée de cette soirée. Le livre est écrit par un médecin qui s'appelle Lilian Le Goff, et ça s'appelle « Manger bio, c'est pas du luxe ». Donc le propos, en tout cas au départ du livre, c'est revenir sur... ces clichés qui consistent à dire que le bio c'est cher, et on l'a encore entendu pas mal dans une certaine presse, une certaine radio récemment, en faisant des amalgames, le bio ça serait pour les bourgeois et les bobos, hein. C'est un peu le cliché qui est notamment véhiculé quotidiennement par France Inter. Donc je vous le recommande, c'est un très chouette bouquin. Si vous ne connaissez pas la question, la thématique de l'alimentation bio, évidemment après ça développe toutes les implications, disons politiques, en termes de politique agricole, les implications sanitaires, environnementales. Donc bon, bouquin très très bien fait sur le sujet. Il y a un équivalent, tout à fait, c'est la copie, quoi. Voilà. J'ai ressorti un livre que je présente régulièrement lors des jeudis en question. Chaque fois qu'on aborde la question agricole, c'est l'enquête de Fabrice Nicolino et François Veillerette sur les pesticides. Donc, révélation sur un scandale français. Si vous lisez ce bouquin, il y a de fortes chances pour que vous arrêtiez de consommer, et pas que pour des raisons de santé, les produits issus de l'agriculture conventionnelle. On parlait de jardinage, donc si vous devez ou si vous souhaitez vous mettre au jardinage et que vous n'y connaissez pas grand chose, ou même si vous avez déjà de bonnes bases, il y a un excellent livre sur le thème. Il est toujours pas concurrencé, c'est Le guide du jardin bio de Jean-Paul Torres, qui vient d'être réactualisé. Et tous les gens à qui je l'ai conseillé l'adorent, l'offrent. J'ai encore quelqu'un qui m'a dit ça ce soir. Donc le guide du jardin bio de Jean-Paul Torres. Et enfin, une dernière chose, des bouquins de cuisine. Alors, il y a des éditeurs qui surfent un peu sur la vague, alors qui collent du bio un peu partout. Bon. Alors évidemment, cuisiner bio, c'est pas sorcier, il suffit de consommer des produits bio. À ceci près que, peut-être qu'on en parlera, que Laurent va nous en parler, si on veut effectivement s'en sortir au niveau budget, et puis même au niveau de sa santé, il faut réviser aussi sa manière de s'alimenter, et notamment réduire la consommation de viande, ce qui fait qu'on se retrouve sans forcément être végétarien. C'est mon cas, je ne le suis pas, mais par contre il y a des bouquins comme Ma cuisine végétarienne de Garance Lereux qui permettent de revoir un peu sa copie en termes de menu et de s'alimenter différemment en privilégiant les légumineuses, les céréales, bon, même si on continue à consommer un petit peu de viande. Voilà, dans le même ordre d'idée, il y a Valérie Cupillard, qui est un peu une star de la cuisine végétarienne. Les éditions, c'est La Plage Éditeur, c'est un petit éditeur. Donc méfiez-vous des copies, les originaux, c'est Terre Vivante en général, La Plage. Et après, il y a des copieurs. Et puis une dernière, c'est toujours Valérie Cupillard, Bio, bon et gourmand. Voilà. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil au bouquin à l'issue de la soirée ou à l'entracte. Donc le principe, c'est que Laurent va intervenir, dans un premier temps, nous exposer un peu ce qu'il a à nous dire. Donc je répète que Laurent Rémès est président de l'APABA, qui est l'association de producteurs...
Producteurs bio de l'Aveyron.
Producteur bio de l'Aveyron, pour faire simple. Voilà. Ensuite, entr'acte, vous pourrez reconsommer de la soupe, vous pourrez aller vous servir au bar, et ensuite on enchaîne sur un débat. Voilà.
Merci.
Bonjour.
Bonjour. Je ne suis pas des plus habitués à ce genre de situation. Je vous demanderai beaucoup d'indulgence. D'ailleurs, vous avez tout là-dedans. Voilà. Donc, je m'appelle Laurent Reves. Je suis, on peut décliner, paysan, agriculteur. Il y en a certains de mes collègues qui n'aiment pas qu'on se dise agriculteur. C'est un petit peu trop productiviste. Sur le marché, j'ai dit que j'élevais mes légumes. Donc, je suis un éleveur de légumes à proprement parler. Et des légumes que je cultive sans pesticides et sans engrais et qui me permet d'utiliser la labellisation bio puisque je rentre dans le cadre du cahier des charges. Ça peut aussi après amener à expliquer pourquoi je suis parti sur ce monde d'agriculture-là. Il y a plusieurs manières d'y arriver et la mienne est un petit peu particulière. Elle est plus liée à un boycott d'utilisation de pesticides. Donc je vends sur les marchés et mais on ne peut pas trouver mes produits en fait. Donc c'est le paradoxe. Voilà un petit peu, j'ai une exploitation qui fait 18 hectares. J'ai eu la particularité et la chance, disons, de reprendre une exploitation familiale, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à chercher, comme nombre de personnes que l'on côtoie à l'heure actuelle et qui voudraient se lancer dans l'agriculture, rechercher des terres qui, dans la région, sont, on peut dire, assez inaccessibles. Donc moi, j'ai eu ce privilège-là. Et donc, j'ai cultivé... Des légumes selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Alors, de légumes de saison, on ne peut pas se passer de tunnels. Donc, j'ai des tunnels et j'utilise du plastique. C'est un produit pétrolier. On a plein de petits paradoxes à gérer et qui fait que voilà, il faut essayer de se sentir bien avec soi-même. Ensuite, je suis aussi président d'une association qui a été créée il y a 20 ans et qui s'appelait l'APAVA et qui était à l'époque l'association de promotion de l'agriculture biologique en Aveyron. Elle avait été créée par des personnes qui souhaitaient à l'époque justement faire la promotion de ce mode de l'agriculture, sachant qu'il existait Nature et Progrès, Demeter, qui est la marque de la biodynamie, et divers petites associations comme ça qui avaient un cahier des charges. Un cahier des charges bio. Ces personnes-là étaient un petit peu seules, donc elles ont décidé de travailler ensemble et donc de créer une association. Cette association, elle a évolué et elle est devenue l'association des producteurs bio de l'Aveyron. On a gardé les mêmes sigles, APABA, c'est l'association des producteurs bio de la... en agriculture biologique en Aveyron. C'est juste un petit peu, mais bon, on est toujours dans le cadre de la promotion et de la mutualisation des expériences de tous les agriculteurs bio. Il y a 2-3 actions qui sont menées par cette association et qui, je veux dire, concernent un petit peu tout un chacun. On est en train à l'heure actuelle d'avoir un dossier assez important d'essayer de répondre aux demandes en restauration hors domicile, toutes les demandes de cantines, et notamment cantines municipales, cantines de lycée et autres, pour approvisionner en légumes bio ces cantines-là. Ça, c'est surtout arrivé suite au Grenelle de l'environnement où il y avait... l'objectif en 2012 d'avoir, je crois, c'était 20% des cantines administratives soient approvisionnées en légumes bio. On en sera loin, mais ça a permis à beaucoup de se poser des questions et à se dire que c'était aussi possible ailleurs et dans tout ce qui était restauration municipal et tout ça. Donc ça, c'est un gros travail. Et puis, cela ne va pas sans production. Donc, il y a la nécessité d'accompagner les producteurs à s'installer dans ce mode d'agriculture-là. Et notamment aussi un sujet sur lequel on travaille, qui est, et qu'on a appelé le projet Ceinture Verte, qui était de faire prendre conscience progressivement aux municipalités qu'elles avaient la capacité de pouvoir récupérer des terres, c'est-à-dire faire des préemptions de terres sur leur territoire, tout comme elles savent le faire pour installer des zones commerciales et des zones artisanales, de leur dire qu'elles avaient aussi la capacité de pouvoir le faire pour installer des agriculteurs qui pourraient justement répondre à ces besoins-là qu'elles mettent en avant de restauration à domicile. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se mettre en place progressivement et sur lequel on essaie d'être actif. Et après, il y a tout un travail d'accompagner les producteurs bio, répondre à des besoins de formation, communiquer, aller voir les responsables administratifs et autres pour essayer de faire avancer la problématique du développement de l'agriculture biologique. À l'heure actuelle, il y a un gros paradoxe entre, tous les chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais le paradoxe entre ce que attend le consommateur que nous sommes tous et qui souhaite dans une grosse majorité que les produits bio soient un peu plus présents dans le paysage et puis d'un autre côté, l'administration et les décideurs politiques qui sont beaucoup plus frileux là-dessus, ils ont aussi à cœur de défendre un mode d'agriculture dit conventionnel qui a été installé depuis les années 50 et qui dans lequel voilà, ils ont peur d'avouer à la limite que une autre agriculture est possible, quoi. Donc ça, c'est assez difficile et c'est un gros travail que mène notre association d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre justement le souhait de tout un chacun et puis la réalité. Alors voilà, donc le thème de la rencontre, c'était le bio, c'est pas du luxe. Et dans un sens, on pourrait s'amuser à définir tous les mots qu'il y a dans cette phrase. Qu'est-ce que c'est que le mot luxe? Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est vrai qu'effectivement, bon, les produits bio, en règle générale, coûtent un peu plus cher, voire pour certains, beaucoup plus cher que d'autres produits. La question qu'il faut se poser, du moins qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que les autres produits sont réellement à un coût, entre guillemets, réel. Il y a plein de petites choses qui se passent. Donc, dans le sens où la plupart des produits conventionnels, appelés conventionnels, mais moi ce mot ne me convient pas trop, je veux dire de l'agriculture classique, ce sont des produits qui sont produits à grand renfort de pesticides et d'engrais, synthétiques, l'azote, et puis des phosphates et des potasses. Tous ces produits-là utilisent de l'énergie fossile pour être fabriqués, donc on utilise notamment le pétrole, et ils coûtent excessivement cher, à produire, dans le sens où le coût réel de ces produits-là n'est pas payé par personne. C'est le coût de la pollution, le coût des transports, le coût de cette matière première fossile qui tend à disparaître, et il semblerait que ça se vérifie de par les experts de jour en jour, quoi, hein. Donc, par rapport à cette problématique-là, l'agriculture classique, donc, qui utilise ces produits-là, utilise des produits pour produire l'agriculture, utilise des produits à un coût subventionné, moi je dis toujours ça, subventionné par les générations futures. Le coût de pollution qu'il y a autour des usines qui fabriquent ces produits-là, ça n'a pas de prix. On peut mettre en avant l'histoire qu'il y a eu à ZF. C'est une entreprise qui stockait et fabriquait des engrais agricoles, et notamment de l'ammonitre. Je veux dire, on aura jamais, on payera jamais à sa juste valeur les dégâts qui ont été issus de l'explosion qu'il y a eu là-bas. Il y a plein d'autres usines, et notamment des usines de pesticides qui sont dans des pays du tiers-monde, et où les règles de sécurité et sanitaires ne sont pas respectées comme on les ferait respecter ici. Et ici, on se demande aussi si on les ferait respecter à leur juste mesure par rapport à l'impact que ça peut avoir. Il y a aussi le fait que cette agriculture, elle vend des produits à un certain coût. La pollution qu'engendre les nappes phréatiques, la pollution de l'air et tout ça, utilisée par ces pesticides, on n'en tient pas compte, et jusqu'à maintenant, personne n'en paye la facture, sauf effectivement, quand chacun de nous a un problème, effectivement, on le paye de sa propre santé. Donc, le jour où le coût réel de l'agriculture conventionnelle, elle, sera vraiment payé, peut-être qu'on s'apercevra que le coût est un peu plus cher. Après, il s'avère aussi que l'agriculture biologique est une agriculture beaucoup plus manuelle, puisque toutes les alternatives liées aux pesticides, on est obligé d'y répondre, et notamment la lutte contre les mauvaises herbes, les problèmes qui liés aux parasites et autres. Donc tous ces problèmes-là, il faut les régler, et c'est un surcoût, c'est pas un surcoût, c'est une surmobilisation de main-d'œuvre, ce qui a un coût, puisque la main-d'œuvre dans nos pays ici et à un certain coût est cher par rapport à celle qu'on pourrait avoir dans d'autres pays. Donc voilà, et ça, il faut aussi en tenir compte. C'est aussi moyen de pourvoir dans des bassins d'emploi à une création d'emploi. C'est beaucoup plus facile pour un producteur bio d'utiliser de la main d'œuvre, et ça permet, disons, de répondre à toutes ces problématiques. Ensuite, il faudrait que je reprenne une petite note. Par rapport à donc ensuite aussi, il y a moins de rendement au niveau des productions par rapport au même travail donné. Donc après, à partir du moment où on souhaite plus ou moins un revenu à la fin de notre travail, mais pour pallier la baisse de rendement, il est aussi nécessaire d'augmenter un petit peu les prix. On le retrouve en production laitière où une vache dite normale, les blanches et noires, arrivent à produire facilement 8000 litres de lait. Les meilleurs arrivent, mais on aura sans doute des records qui vont tomber cette année au salon de l'agriculture. Donc qui arrivent à faire des 10000 litres de lait dans certaines exploitations. En agriculture bio, on flirte beaucoup plus avec des 5000-6000 litres de lait. Bon, après, ça permet aussi de diminuer les risques sanitaires sur les animaux, mais n'empêche que la différence est quand même relativement importante, et il est nécessaire de la trouver quelque part. Il y a aussi, à l'heure actuelle, le coût d'une matière, elle est liée à son poids. Donc on achète des kilos de lait, en fait c'est des litres de lait, mais c'est des kilos de lait. On achète des kilos de carottes, on achète des kilos de pommes de terre, des kilos de fromage. Et on n'achète pas la qualité en fait, qu'il y a derrière. Et si, par rapport à certains produits, par rapport à la qualité qu'il y aurait derrière, je pense que ça serait intéressant de savoir quelle est la proportion et peut-être qu'on se rendrait compte que les produits bio ne sont pas aussi chers, même si il le resterait un petit peu. Après, il y a aussi l'agriculture biologique en général et il y a aussi des subventions directes liées aux exploitations. On est sur des exploitations, la plupart du temps, les aides à l'agriculture sont liées à la surface et au volume de production, au volume de c'est-à-dire plus on a de bêtes, plus on a de primes, plus on a de surface agricole, plus on a de primes. Et comme la gestion d'une exploitation agricole, en général, elle est beaucoup plus humaine, on se retrouve dans des exploitations, en général, beaucoup plus petites. Il y a quand même des grosses exploitations qui sont passées en agriculture biologique. Mais dans le paysage, on se retrouve beaucoup plus, quand on fait la moyenne des productions et la moyenne des surfaces en bio et la moyenne des exploitations, on se retrouve avec un chiffre qui est relativement un petit peu en deçà, c'est-à-dire que les plus grosses exploitations ne sont pas en bio et ce sont plutôt les petites qui ont pris parti à un moment donné de passer en agriculture bio parce que le schéma conventionnel ne permettait pas trop de fonctionner et en valorisant leurs produits en vente directe et en transformation, ce qui était possible sur des petites structures et qui était beaucoup moins sur des grosses, ça leur permettait de mieux valoriser les produits et donc effectivement de pérenniser leur exploitation. Donc on se retrouve avec des exploitations qui sont un peu plus petites et donc qui ont la plupart du temps moins de subventions que les grosses exploitations. Ensuite, par rapport au coût, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est et que moi je me pose beaucoup, c'est quel prix on est prêt à mettre et à partir de quel moment on peut considérer que un produit quelconque est cher. En sachant que moi je me suis souvent posé la question de quels étaient mes besoins pour vivre en fait, et je me suis aperçu que en déclinant mes besoins, il y en avait qui étaient plus ou moins essentiels et puis d'autres qui l'étaient beaucoup moins. Et dans les moyens qui étaient, du moins les choses qui étaient le plus essentielles, j'avais besoin en premier lieu d'air pour respirer, j'avais besoin d'eau pour boire et j'avais besoin d'alimentation pour me nourrir. Ça, c'était les choses les plus essentielles. Après, dans nos régions, on a besoin aussi d'un bâti pour pouvoir vivre maintenant, puisque c'est vrai que la période, on ne peut pas trop vivre dehors. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont essentielles. Mais c'était de savoir, est-ce que ces choses-là, on pouvait considérer qu'elles pouvaient être chères dans la mesure où elles sont indispensables à notre vie. Alors je lance le débat parce que ça fait partie d'une réflexion vraiment personnelle qui mérite d'être approfondie. Et de se poser la question de savoir si, à partir du moment où on voulait vraiment quelque chose de produit de qualité, puisqu'à partir du moment où on considère que les produits sont chers, c'est qu'on souhaiterait les acquérir dans un premier temps. Si on ne souhaite pas les acquérir, on se fout vraiment qu'ils soient chers ou qu'ils ne soient pas chers. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de se dire, moi j'ai envie de ces produits-là et je les considère chers. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont chers ? Dans la mesure où il y a énormément de choses derrière, dans la mesure où ils sont essentiels à ma survie. Et voilà. Donc ça, c'est des questions, je pense, qui me seraient intéressantes de débattre avec vous pour essayer de justement essayer de d'approfondir cette réflexion. Sachant que le poids de l'alimentation a énormément évolué depuis les fils des temps. Je pense que il y a 10-15 000 ans, c'était l'essentiel de leur vie, en fait. Ils passaient leur temps à se nourrir et ils passaient... Voilà, la quasi-totalité de leur activité était liée à la nourriture. Dans les années... maintenant, en revenant sur des chiffres un peu plus sérieux, dans les années 60, un revenu moyen consommé, du moins consacré à peu près 45% de son revenu dans l'alimentation. Dans les années 2000, on est passé à 17%. On consacre 17% de son revenu. Alors, est-ce que nos revenus ont baissé d'autant que depuis les années 60? Ça aussi, c'est une question à se poser, mais je ne pense pas. Donc, je crois que dans nos priorités, on a défini d'autres priorités dans la vie, et c'est l'alimentation qui en fait les frais. L'alimentation, l'air aussi en fait les frais, puisque il y a des analyses qui ont été faites et qui montrent qu'une grosse partie, du moins l'air que l'on respire, est souvent quasi saturé de pesticides que l'on absorbe et que l'on respire, et la plupart du temps on ne les rejette pas dans l'atmosphère. Et puis l'eau qui, dans certains endroits, est quasiment considérée impropre à la consommation. À ce titre, justement, on avait une grande rencontre il y a 7-8 ans de ça avec tous les acteurs des produits, des labels, des différents labels qu'il y avait en Aveyron. Et on se retrouvait pour discuter justement de l'impact des labels, et puis est-ce qu'ils étaient vendus à leur juste prix, quelle était la conséquence de chacun, ainsi de suite, tout ça. Et donc, c'était des grandes pontes, notamment du conseil régional, du conseil général et tout ça, des personnes tout à fait sérieuses, bien sûr, qui discutaient. Et à un moment donné, moi, je leur ai fait remarquer que l'eau qu'il y avait sur la table, on parlait de qualité, de bœuf d'Aubrac, et tout ça. Et toute l'eau qu'il y avait sur la table pour boire, c'était de l'eau en bouteille manufacturée, quoi. Et donc je leur ai posé la question s'ils considéraient que c'était ça la qualité, quoi, en fait. C'est-à-dire de faire des produits dits de qualité d'un côté, et puis d'un autre côté être obligé de boire de l'eau en bouteille parce que on a peur de l'eau qui est du robinet et on la considère toujours moins impropre à la consommation. Donc c'est toutes ces petites questions, quoi, qui sur lesquelles il faudrait débattre. Voilà, plus ou moins brossé. Après, j'attends des questions. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à pouvoir répondre à ces questions, j'espère bien. Et puis, si vous avez des questions sur la production ou autre, tout ça, ou justement sur ce sujet-là, ça m'est bien venu.
Bonjour, je me présente rapidement. Je suis responsable local de Bioconsommateurs. Donc, la petite revue que vous avez vue là, elle est éditée par une association qui s'appelle Bioconsommateurs. Vous aurez l'intitulé, vous regardez ça en détail. Alors, je voulais intervenir sur une remarque que tu avais faite tout à l'heure quand tu disais quant au prix de l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, ou comme on veut l'appeler. Il y a aussi tout l'aspect, tu disais que dans l'agriculture biologique, on est beaucoup plus dans le mécanique, c'est-à-dire la main, le manuel, donc c'est une source de travail, c'est vrai. Ça permettrait, si on optait pour une agriculture biologique, de fournir beaucoup plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle. Hein, sur un gros tracteur, surtout les énormes 4x4, eh bien, je peux faire abattre un travail, je ne sais pas, qui correspond peut-être à 4 personnes en une journée. Et donc voilà, mais surtout le prix de revient de fabrication non seulement des pesticides mais également du matériel, les hangars, les énormes 4x4, toutes les machines agricoles qui reviennent très très cher, surtout que dans la plupart des cas, même si elles sont acquises par exemple par un GAEC, elles sont acquises par un petit groupe de personnes et ça fonctionne entre eux, voire un individuel. Donc ça veut dire que le coût de revient de l'agriculture conventionnelle, il faudrait le multiplier au moins par 3 ou 4. Et pas simplement voir l'aspect pesticide et l'aspect environnemental. Il y a aussi tout ce qui a été mis toutes les étapes intermédiaires qui ont été mises en œuvre pour la fabrication de ces machines énormes, monstrueuses. Et après, dans le coût environnemental, il y a encore un autre aspect, moi, qui me tient à cœur, c'est l'engrenage dans lequel on se lance quand on passe avec ces énormes engins, moi j'appelle ça presque les bulldozers agricoles. Et bien après, le paysage lui-même est transformé. Le paysage lui-même, il est meurtri. Et par exemple, on sacrifie, l'autre jour, il y avait une réunion très intéressante à Nocelles, et on sacrifie des haies. Les haies, ce sont des... la haie, c'est un biotope très particulier. C'est un environnement, c'est à lui tout seul. La haie, elle a besoin de rien d'autre pour vivre. Les animaux, la faune, la flore typique d'une haie, vous ne la trouvez pas en forêt, vous ne la trouvez pas en prairie. C'est un habitat très particulier pour certaines espèces animales. Alors quand vous êtes obligé de supprimer des haies pour passer les énormes 4x4 tracteurs 4x4, là, parce que j'accuse pas les agriculteurs, hein, je sais bien qu'ils sont... ils sont plutôt à plaindre, mais disons que deux victimes, ils ont aussi une part de responsabilité. Eh bien là, ça devient un cercle infernal. On a acheté un gros 4x4, eh bien, il va falloir l'amortir, donc ils vont enlever les haies, il faut passer, quoi. Donc vous voyez, c'est un impact beaucoup plus large, et quand tu disais tout à l'heure, le coût de l'agriculture traditionnelle elle semble moins cher, en fait, elle est énormément plus chère, parce que pensez, pour faire un tracteur, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut du pétrole, de toute façon. Mais il faut des matières premières. Et toute cette matière première, eh ben, elle est vouée à être gaspillée. Une fois que le tracteur ne marche plus, il n'y a plus rien. Alors que si on n'était jamais rentré dans ce cercle-là, eh bien, l'agriculture bio, entre autres, eh bien, ça suffirait largement et on consommerait moins, quoi. On consommerait moins, pas uniquement l'alimentation, mais on consommerait moins d'énergie, de sources d'énergie. Pas que le pétrole, mais le fer, l'acier, bref, tout ce qui rentre dans ces machines-là. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais apporter.
C'est plus qu'une parenthèse.
Ouais, c'est plus qu'une parenthèse, en fait, oui.
Après, bon, il ne faut pas non plus croire que tous les producteurs bio travaillent en traction animale. Non, plus.
Non, mais bien sûr. Mais on ne tombe pas non plus dans les excès, je veux dire. Il y a moyen de faire autrement. Et si vous suivez un petit peu ce qui se passe en agriculture bio, il y a un retour très net entre le bio et le conditionnel. Des agriculteurs, en particulier dans la région dans laquelle je suis issue, en Bourgogne, là où il y a du bon vin, soi-disant, j'en vois pas, mais bon, il paraît qu'il est très bon, et bien où justement revient l'attraction animale, et même dans l'agriculture conventionnelle, parce qu'on s'est aperçu des dégâts environnementaux causés par les tracteurs, avec le tassement, et du coup il y a la mort de toute la microfaune, microflore qui disparaît, parce que quand on a un engin qui fait plusieurs tonnes, il ne faut pas penser qu'un animal peut respirer là-dessous, même si petit soit-il, même la faune anaérobie, c'est-à-dire les tout petits microbes, les petites bactéries qui sont nécessaires, quand on passe le rouleau compresseur là-dessus, ben, tout est mort. Hein. Et donc, il y a beaucoup de retours à l'attraction animale. Contrairement au cliché qu'on nous fait dire, dans les Vosges, ça fait longtemps qu'ils ont réfléchi, en Bourgogne, ça commence, même dans les côtes de Beaune, etc. Voilà.
Alors, avant d'aller plus avant dans le débat, ça a été posé par Laurent, tu l'as posé aussi, le problème du manger bio, et donc comment y arriver. On va peut-être passer à un petit temps mort dans notre soirée, mais temps mort qui va être très vivant, puisque vous avez la possibilité de consommer votre soupe, de prendre une petite bière ou un petit verre de vin rouge, et nous reprendrons le débat d'ici un quart d'heure, 20 minutes, enfin nous reprendrons, nous mettrons en route le débat avec Laurent et avec tout. Que tout le monde puisse s'exprimer. Alors, c'est une volonté de la part des organisateurs que de ne pas mettre en route un micro, parce que c'est jamais très facile de micro, ça peut aussi effectivement paralyser les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Il est important que ce soit des gens qui se posent des questions, qu'il les pose effectivement à Laurent, ou bien qu'il y ait dans l'assistance des gens qui puissent répondre aux questions que d'autres se posent. Voilà, alors donc, si vous voulez bien, on va reprendre le débat, puisque là, Laurent nous a fait un exposé qui n'est sûrement pas exhaustif, puisqu'on a vu aussi qu'il y avait d'autres volets possible tout à l'heure sur l'intervention de Madame
Ouvelle Catherine.
Voilà, de consommateur. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il est important que ce soit tout un chacun qui se pose des questions, qui les pose ce soir en toute simplicité, puisque, bon, on n'est pas très nombreux et l'assistance est quand même venue là pour le sujet en question et donc est intéressée par les réponses que tout le monde pourra donner. Voilà.
Donc, si vous voulez bien, les premières questions sont les bienvenues. Elles en entraîneront sans doute d'autres. Et donc, allez-y. Oui.
Oui. On parle bio, on peut parler naturel. Ça, c'est des termes, ça. Hein. Mais pour rebondir à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je veux parler de ma propre expérience. Moi, quand j'étais petit, je suis aussi de la vallée du Lot, là-bas. Mon père labourait avec des bœufs. On avait un jardin. On avait des fruitiers. On ne traitait pas parce que ça coûtait très cher. Ou ça n'existait pas ou très peu. Enfin, si on traitait un peu la vigne, un peu les tomates. Hein. Et on avait beaucoup de fruits. À l'heure actuelle, depuis, ces exploitations ont disparu. Hein, parce que justement, la mécanisation n'est pas arrivée. Et là, j'ai compris ce que cette dame a dit. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des choses parfois qui sont réalisables et d'autres pas. Je parle dans des pays pentus, petites exploitations, tout ça. La question que je voulais poser, ce qui m'étonne, c'est qu'à l'heure actuelle, les fruitiers, parce qu'il y a encore quelques jardins, qui ne sont pas traités. Mais il y a une différence entre il y a 60 ans, 1950, les fruitiers qui donnaient des fruits, et à l'heure actuelle, sans traitement toujours, qui ne donnent pas de fruits. Alors les gens disent, ben oui, il y a une pollution, il y a peut-être une histoire de résistance des arbres, je ne m'explique pas beaucoup. Alors ça rejoint la question que je voulais poser sur quel amendement faire pour faire du naturel, c'est-à-dire sans engrais.
Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais par rapport à la pollinisation des arbres fruitiers et autres, il y a quand même quelque chose qui est primordial là-dedans, c'est les abeilles. Et les abeilles, jusqu'à maintenant, elles vivaient relativement bien, et puis maintenant, c'est la catastrophe. Quoi. Tous les apiculteurs locaux sont là pour le dire, il y a des ruches, ont des problèmes liés à, bon, il y a le frelon asiatique, il y a le fameux varroa qui est une araignée, qui les parasites et autres qui n'existaient pas avant ou qui étaient moindres, mais n'empêche qu'il y a des mortalités qui sont inexpliquées à l'heure actuelle, notamment a priori liées à des teneurs en pesticides, le peu d'analyse qui a été fait, en pesticides dans ces abeilles-là, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire une corrélation en partie du fait que toutes les abeilles se portaient bien à l'époque de quand vous étiez enfant et que maintenant elles sont toutes plus ou moins entre guillemets handicapées ou et donc elles n'arrivent pas à faire relativement bien leur travail, quoi. Ça, c'est une question, je crois, une des premières à se poser, parce que les fleurs sont là. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a aucune raison que ces fleurs-là ne fassent pas de fruits. Là. Bon, il y a des années, quand même, ils y arrivent. Il ne faut pas désespérer. Mais bon, moi, c'est une... Votre question m'amène à cette réponse-là, en fait, de se poser la question. Et c'est vrai que... après, on peut se poser la question justement par rapport à l'utilisation de pesticides, de dire, ben moi j'en utilise un petit peu, c'est pas grave et c'est pas important. Le fameux gaucho, je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité et autres, du cruiser, du gaucho, qui sont un insecticide qui est là et que l'on a mis pour enrober les céréales. Et le maïs tournesol, avant le semis, pour les protéger contre les parasites du sol qui vont l'attaquer pour qu'il ait plus de vigueur au départ. Ce produit, il enrobe une graine. Donc à la limite, je veux dire, c'est insignifiant. La quantité qu'il peut y avoir de produits sur un hectare. On met en maïs, on va mettre 75 000 graines à l'hectare. Je les ai comptées, mais 75 000 graines. 75 000 graines, par rapport à la petite quantité, il faut 100 grammes de produits, ou je sais pas moi, 200 grammes de produits sur un hectare. Et cette quantité-là, suffit à ce que la plante contienne cette matière active et que l'abeille, quand elle va venir prendre du pollen, puisque les abeilles prennent du pollen sur les pieds de maïs, quand elle va venir prendre le pollen sur les pieds de maïs, l'abeille est bien s'empoisonner. Donc je veux dire, la conséquence, on imagine pas le côté nocif que peuvent avoir ces produits-là, et il n'en faut pas beaucoup. Alors il suffit qu'à un moment donné, on mette un petit insecticide par là, un petit insecticide par-ci, parce qu'on a un problème avec les doryphores, parce qu'on a un problème avec des trucs comme ça. On a vite fait d'éradiquer un écosystème en rien de temps, et pourtant on peut avoir l'impression de ne pas faire mal, quoi, parce qu'on n'est pas des gros agriculteurs avec 2000 litres de produits dans le dos, et effectivement notre gros tracteur est en train de battre la campagne. On est là avec notre petit pulvérisateur et des petites doses insignifiantes qui suffisent à déstabiliser tout un système. Donc ça, c'est des questions qu'il faut aussi qu'il faut se poser, quoi. Et après, je ne pense pas que d'un point de vue amendement tel qu'il soit, il y ait quelque chose de miraculeux à faire maintenant.
Je voulais te poser la question à toi. Quel amendement fais-tu?
Moi, j'apporte de la matière organique sur mes terres, parce que sur le principe, c'est que le sol est un élément vivant. Et donc moi, je nourris mon sol, je lui apporte la matière organique, c'est avec ça que je le nourris. Et les bactéries, les champignons, ainsi de suite, et tout ça, vont dégrader cette matière organique pour jusqu'à des tout petits éléments. Et ces petits éléments-là sont à disposition de mes plantes que je fais pousser dessus. Mais je n'ai pas un amendement particulier pour tel type de production ou tel type de production. C'est je nourris mon sol, quoi.
Oui, mais le problème, c'est qu'on n'en trouve pas beaucoup. Même un amateur pour son jardin, c'est difficile de trouver un bon... autrefois, c'était le fumier des vaches.
Pourtant, il y a de plus en plus de vaches.
Ouais. Ben oui. Sous quelle forme la matière organique?
Sous quelle forme? Ben en fait, il est le fumier pur comme ça, il a plutôt tendance, s'il est mal utilisé, à faire une fermentation anaérobie. Et donc l'idéal, c'est de commencer la fermentation. Donc on appelle ça le composter, mais c'est plutôt l'aérer, de manière à ce que les matières azotées et les matières glucidiques, je veux dire, tout ce qui est paille et autres qu'il y a dans le fumier, commence une fermentation liée aux bactéries et aux champignons. Et à partir de ce moment-là, cette matière organique qui est du compost est mise sur les terres, et on évite beaucoup moins les problématiques de risque d'asphyxie au niveau du sol.
Les engrais verts, tu utilises?
Les engrais verts aussi, on utilise, oui. Oui, oui. Mais pas tout le temps, ça dépend où, quoi.
Est-ce que du fumier issu d'un élevage non bio permet de faire de l'agriculture biologique?
Je crois que le cahier des charges l'autorise.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, le cahier des charges l'autorise.
La question se pose pour le compost, hein.
Ah, tout à fait, bien sûr.
Est-ce que les épluchures de légumes non bio permettent de faire du compost qui va permettre de faire...
Oui, tout à fait.
Bon, que vous me répondiez que le cahier des charges l'autorise, c'est une réponse qui est trop facile pour pouvoir me satisfaire.
Allez plus loin, alors.
Alors, à votre avis?
Moi, pour moi, personnellement, non. Mais parce que, on a, justement, on pourra revenir à ce que je disais précédemment, c'est qu'il y a des prophylaxies obligatoires sur les animaux, et notamment la fameuse lutte contre la fièvre cataraloïde et tout ça, on utilise un produit qui s'appelle l'Ivomec, et l'Ivomec est à très très, 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 très petite dose. C'est un antiparasitaire, insecticide, quoi, assez virulent. Et c'est vrai que on le retrouve dans les excréments des animaux, et donc on le retrouve dans le fumier. Donc c'est vrai que pour moi, j'aurais tendance à proscrire ça. De notre côté, je préfère autant une personne qui va utiliser, si elle n'a pas possibilité, ce type de fumier-là, plutôt que d'avoir recours à une fertilisation beaucoup plus, entre guillemets, minérale, qui viendrait d'ailleurs, quoi. Mais dans l'idéal, non, si c'était possible.
Ouais. Je vais reprendre l'exemple de la soupe. Sachant que pour nourrir 80 personnes autour de cette table, on n'arrive pas à trouver 4 légumes bio. Sachant qu'il faudra plusieurs décennies pour nourrir la population donnée le château de Rodez de Marcillac en légumes bio, propres, naturels. Sachant que pour nourrir la population de Marseille, Lyon, Paris, il faudra sûrement plusieurs siècles.
Non, t'exagères.
Et on arrive à, donc tu me diras, le volume que pourraient dégager des producteurs bio dans un département comme l'Aveyron pour nourrir X population, en sachant qu'on peut très bien réduire notre consommation de veau, voire même de légumes, peut-être. Ça, bon. Ça m'amène à cette deuxième constatation. Les rayons actuellement des grands supermarchés suite au Grenelle de l'environnement et suite à ce que peut apporter la vente du bio par les grandes firmes qui sont déjà mises sur ce marché, est-ce que la solution n'est pas de faire faire nos produits bio en Argentine, comme c'est déjà le cas, en Israël, au Japon, puisque de toute façon, on est, et quand je dis plusieurs siècles, tu me dis que j'exagère, on en a pour plusieurs siècles avant que les habitants de Marseille, parce qu'il y a quand même du monde, si nous on arrive à faire un jardin, il est hors de question qu'un habitant de Toulouse, il ait un petit jardin à 15, 20, 30, 40 km de Toulouse pour aller cultiver ses bonnes terres. Alors on parle pour nous, mais moi je voudrais qu'on parle aussi pour l'ensemble de la population d'un pays, sans l'arrêt des frontières, je ne peux pas limiter à ça. Donc comment, à quel moment on peut faire des pressions plus fortes, et vers qui, pour ne pas s'orienter vers un produit bio argentino, israélien ou pakistanais, qui nous coûterait tout autant aussi cher vu ce que ça réclamerait de pétrole, de gasoil, de tout ce qu'on voudra pour l'acheminer, comment on fait dans nos régions pour ne pas se contenter, nous, 80 personnes, manger de la soupe bio chez Mazars aujourd'hui, et que la on puisse manger plus raisonnablement des choses qui nous pollueront un peu moins la vie. Est-ce que tu as une idée de ce qu'il faudrait pour arriver à quelques pourcentages de plus de production locale ou extra-locale, mais sans aller chercher donc ces grands pays qui se sont mis sur le marché par le biais de la...
Pour moi, il y a une réponse, je veux dire, il y en a une qui est bientôt, là, le 14 mars.
Ben voilà. Exactement.
C'est de savoir pour qui on vote, en fait. Il y en a qui affichent clairement que l'agriculture doit prendre un chemin, et puis il y en a d'autres qui ne l'affichent pas, et puis il y en a d'autres qui affichent clairement que, de toute manière, ce n'est pas leur priorité. Donc, je veux dire, à partir de là, la deux ou troisième action, dans le sens où je considère toujours que mon action, moi, est la première chose, est mon premier levier, en fait. Donc, c'est-à-dire, ce que je consomme, effectivement, il vaut mieux le fait d'acheter ce que l'on a envie, va dans le sens de ce qu'on voudrait, quoi. Je suis pas très clair, là, en fait. Donc ça c'est le premier, c'est ce que nous consommons qui est nos choix, qui sont le premier levier. Le deuxième levier, c'est effectivement, on a des politiques qui orientent plein de choses, et c'est de leur donner les moyens, en toute conscience, de dire, ben voilà, moi je vais voter pour celui-là, parce qu'il me permettra de quand je vais placer mes stocks options, de gagner plus d'argent, quoi, en fait. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut se poser aussi, et de savoir, après, c'est la pression que l'on peut faire en demandant. Il y a des municipalités qui sont à l'écoute, par exemple, de parents d'élèves ou ainsi de suite, qui demandent que le restaurant dans lequel sont leurs enfants ait des produits un peu plus de terroir, un peu plus naturel. Donc tout ça, c'est des leviers qui existent, qui n'ont pas effectivement énormément de poids, mais qui l'empêchent, ce sont des leviers, quoi. Et qui... Après, la solution pour moi, elle est grandement politique. Hein, donc tant que le choix, on n'aura pas impulsé, il n'y aura pas une impulsion au niveau politique, les choses ne changeront pas entre le discours de « on aimerait que ce soit comme ça » et puis de s'apercevoir que ça ne change pas. Pour la petite histoire, bon, le gouvernement actuel et notamment le ministre de l'Environnement, Borloo et tout ça, dit partout qu'effectivement il faut du produit bio, il faut le Grenelle de l'Environnement, il l'a sous le bras et il le ressort à chaque coin de rue. Et donc les 20% de produits bio, voire plus, il y a 20% de produits bio et 20% de produits de terroir dans l'alimentation, dans l'alimentation dite de l'administration. Ils ne peuvent pas influer sur le reste, mais c'est là-dessus qu'ils se sont basés. Donc ça fait quand même 40%, on peut considérer, d'agriculture un peu plus, qui ne vient pas d'ailleurs et un peu plus respectueuse. Sachant que toutes les porcheries les plus industrielles soient-elles, elles font partie d'un terroir. Hein, donc, voilà. Le gouvernement affiche clairement qu'il y a des qu'il faut développer l'agriculture biologique, qu'elle est là pour répondre aux attentes des consommateurs. Et tout ça. D'un autre côté, il y a des budgets qui sont alloués via les différents ministères au niveau de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt qui gère les financements nationaux qui sont répartis au niveau régional, et les budgets depuis 7-8 ans n'arrêtent pas de baisser. Ils baissent, et nous on se bagarre pour essayer simplement de les maintenir. Donc on a réussi cette année avec justement à plus ou moins les maintenir à la même hauteur que l'année dernière, mais je veux dire, c'est des sommes qui sont insignifiantes. C'est l'État met sur Midi-Pyrénées 400 000 euros quoi, pour développer l'agriculture biologique. Surtout le Midi-Pyrénées. Donc, ça fait 50 000 euros par département. On est 8 départements. Et là-dessus, il y a les chambres d'agriculture qui se positionnent. Il y a les groupements d'agriculture biologique, comme notre association, la PAVA, qui se positionnent. Il y a les coopératives. Il y a tous les acteurs de l'agriculture biologique qui se positionnent sur ces 50 000 euros. Donc, je veux dire, à un moment donné, ça devient risible. Soit on veut se donner les moyens d'aller jusqu'au là où on veut, soit, effectivement, on fait croire. Et après, c'est les personnes qu'on met au pouvoir qui peuvent changer les choses, pour moi.
Moi, j'avais fait une question, je ne suis pas du tout calée par rapport au débat, mais je voulais savoir, en fait, comment faire... Vous avez dit qu'il y avait beaucoup de demandes, que ça coince au niveau du politique, et comment faire en sorte que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, ne sont pas bio... aillent vers le bio. Ils ont à tout prix besoin des aides politiques et des aides financières parce qu'il y a trop d'écart entre le monde bio et le monde de l'agriculture intensive. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas passer au bio ?
Non. Ils peuvent pas passer au bio parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait. Et parce qu'on cultive la peur. Dans les formations agricoles, depuis, je crois que c'est cette année, c'est l'année 2008-2009, qui officiellement, il y a des programmes bio dans plus ou moins toutes les écoles, dans tous les lycées. Il y a des programmes dedans, mais c'est quelques heures de par rapport au programme. Sinon, avant, c'était au bon vouloir de certains lycées qui disaient, ben, écoutez, on va faire une petite formation en agriculture biologique. Ce qui veut dire que toute personne susceptible de devenir agriculteur, donc à la fin de son cursus scolaire, se retrouve dans une situation où on ne lui a jamais expliqué ce que c'était que l'agriculture biologique. En général, on lui a plutôt montré du doigt en lui disant oui, ce sont eux, soit les babacools, soit il n'y aura pas de rendement, soit vous n'allez pas y arriver. Et si il y a une incidence climatique, comment vous allez faire si vous n'avez pas un petit peu d'engrais azoté au printemps pour booster la prairie? Comment vous allez faire si vous avez un animal qui a telle et telle maladie? Comment vous allez faire si votre céréale a une maladie et tout? Donc on peut présenter l'agriculture biologique sous une manière négative et en faisant en sorte que les gens en aient peur. Et pour moi, jusqu'à maintenant, la formation agricole, elle a toujours été, elle a plutôt présenté. Mais j'y suis passé, donc je sais à peu près comment elle est présentée. Donc, elle a toujours présenté l'agriculture comme celui-là. On n'a jamais pris le parti d'expliquer les fondements de l'agronomie et de l'agriculture, qui est commune à l'agriculture conventionnelle et à l'agriculture biologique, donc partir là-dessus, et puis ensuite, par rapport à ça, de dire, pour ceux qui veulent faire une agriculture, entre guillemets, un peu plus productiviste, on va vous faire un certificat de spécialisation, on va vous spécialiser là-dessus, et on va vous donner les rudiments de... Mais à l'heure actuelle, non. La personne, elle va sortir de son cursus scolaire, elle veut devenir maintenant agriculteur, elle va s'installer, elle a affaire à qui? Elle a affaire aux chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture, tous les techniciens des chambres d'agriculture ont été formés sur ce même concept, en fait. Donc on est sur un système où, à l'heure actuelle, le serpent se mord un petit peu la queue, les techniciens agricoles, à l'heure actuelle, certains sont capables de faire quelques petits accompagnements à l'agriculture biologique, mais jamais sans s'être posé la question le fondement, comment ça doit se construire, et de partir du sol et aller vers le résultat. Ils sont là en disant, mais voilà, vous pouvez très bien faire effectivement les pommes de terre, vous allez avoir un problème de doryphore, vous ne pourrez pas utiliser tel produit, mais il existe une solution en agriculture biologique. C'est une lecture du cahier des charges, c'est aussi, le cahier des charges, il sert à ça, malheureusement, c'est une lecture du cahier des charges qui fait que on ne sécurise pas les gens qui veulent rentrer dans cette démarche-là ou qui se posent ces questions-là, on leur met plutôt devant toute la liste des problèmes qu'ils vont rencontrer et auxquels ils n'auront pas de solution pour y résoudre directement, quoi. Donc ça, c'est pour moi, c'est un enjeu, on en rejoint à l'enjeu politique, c'est de revoir les formations agricoles pour arriver à... Et ça, je veux dire, il n'y a que l'engagement politique qui peut le faire. Ce sont nos députés qui vont pouvoir le faire. C'est le gouvernement qui va pouvoir changer les choses éventuellement. Dans la mesure où après, effectivement, la profession agricole donnera plus ou moins son aval là-dedans, quoi, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est quelque chose de... Ben, c'est bien protégé, quoi. Il y en a deux, je ne sais pas, je ne donne pas la parole, je ne suis pas
du même. Oui, mais on ne donne pas la parole.
Dans le même contexte, il faut saluer la création d'un lycée agricole en agriculture biologique, en Bretagne, je crois, du côté de Morlaix.
À Sainte-Afrique, il y avait une filière bio qui était pas trop mal, et cette année, elle a fermé. Parce que justement, il n'y avait personne qui y vienne. C'est-à-dire que c'était une formation qui était entre guillemets, de spécialisation en fin de cursus. Ce qui veut dire que soit les personnes qui y allaient, c'était des personnes qui venaient soit de lycée agricole, soit elles venaient de lycée et de collège classique. Et quand vous... Je crois qu'il y a des... Après la troisième ou pendant la troisième, il y a les forums d'orientation ou je ne sais, des choses comme ça, là où on peut voir divers métiers. Je veux dire, l'agriculture biologique, effectivement, n'est pas présente. Et quelqu'un qui, à la limite, est intéressé par l'agriculture, en général, ben, il va aller dans le circuit conventionnel, tête baissée, en premier lieu, quoi. Et pour moi, c'est un des gros problèmes, quoi.
J'avais une question par rapport à... Enfin, est-ce qu'on ne pensait pas qu'il y a un problème aussi d'éducation? Parce que enfin, mon mari est agriculteur biologique aussi. Et donc, quand les gens de Paris veulent, par exemple, manger du veau bio, ben, ils cherchent du veau en batterie très blanc. Et les veaux qui gavent dans nos campagnes n'ont pas une viande si blanche. Quand ils veulent manger des légumes, ils veulent des légumes tout lisses, des fruits tout lisses. Et vos fruits, enfin, j'imagine, que vous soyez extraordinaire en bio, mais en général, ne sont pas. En bio, ils sont toujours un peu piqués, un peu. Ils sont jolis, mais jolis pour les amateurs de ce genre de fruits. Mais parce que nous, on est dans une région où on connaît le fruit naturel, le fruit qui est sur le pêcher, le fruit qui est sur le pommier, on sait qu'ils ont ces taches naturelles qui nous donnent envie de les croquer, mais eux, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt repoussant pour les gens qui n'ont pas été éduqués à ça. Donc vous voulez savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose au niveau de l'éducation aussi qu'on apporte à nos enfants dans... Voilà, à faire.
C'est sûr, mais après, de l'autre côté, moi je me suis aperçu que on se retrouvait entre des amis tous convaincus, Et puis, on partage des pommes, il y a 12 pommes, et s'il y en a une qui a le vert, c'est la dernière que tout le monde prend, même si on en est convaincu, quoi, en fait. Donc, à la limite, je veux dire, on a ça en nous, en fait. Quand moi, je vends des légumes, c'est les plus beaux, effectivement, hein, même dans notre terroir, même des gens qui sont convaincus de ça, on est malheureusement attiré par ce concept-là. Donc on va quand même prendre les plus beaux, et puis à la fin, il va rester les moins beaux, et voilà. Donc ça, on l'a en nous. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qui fait que, ça c'est vraiment un culturel très très profond, mais après c'est vrai d'arriver à, peut-être, au niveau scolaire, à réapprendre tout ça, mais moi mes enfants, ils n'aiment pas les verres ou les fruits.
Justement, au niveau scolaire, ça serait peut-être bien que tu développes un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, hein, par rapport aux interventions. S'il y a des parents d'élèves dans des associations ici, c'est vrai aussi que ça serait intéressant que vous vous exprimiez là-dessus, parce que les cantines scolaires peuvent être effectivement amenées en bio. S'il y a des municipalités, des élus aussi qui veulent foncer là-dedans, ben, il y a des cadres qui peuvent effectivement être mis en place.
Oui. Voilà, donc je vais reprendre brièvement. Oui, tu parlais beaucoup, tu disais que tout était politique, et je crois que tu as complètement raison. Hein. C'est par la politique qu'on peut faire changer les choses. Et qui fait la politique, ben, c'est nous sur le terrain. Je veux dire, c'est du concret. Hein. Ça ne va pas nous tomber dessus, c'est à nous de choisir ce qu'on veut vivre. Et surtout ce qu'on veut faire vivre aux générations d'après, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas dire dans 2 ans, 3 ans, dire ah ben non, on a loupé le coche, on a déjà loupé plusieurs fois, maintenant il faut peut-être réagir. Maintenant je reviens sur la proposition de l'éducation. Tu disais que c'est vrai, enfin vous disiez tous les deux que c'est vrai qu'on est attiré instinctivement vers ce qui paraît beau, etc. Mais en fait c'est toute une histoire d'éducation. Et donc l'éducation elle commence, je dirais presque avant la naissance, mais au moins à la naissance. Et après c'est au quotidien. Et bon, j'étais instit jusqu'à la rentrée, maintenant je ne suis plus instit, je suis intervenant dans ce qu'on veut, surtout dans la bio. Et donc si vous avez envie de sensibiliser, de faire une sensibilisation par l'intermédiaire de vos instits, des instits auxquels vous confiez vos enfants, faites-le savoir, on peut faire quelque chose. Et il y a un film extraordinaire à voir, c'est « Nos enfants nous accuseront de Jean-Pierre Guillaume ». Il faut le voir. Et moi, je l'ai acheté personnellement, mais je n'ai pas le droit de vous le prêter, parce qu'on n'a pas le droit de le diffuser en salle, parce qu'il faut faire des démarches auprès de la SACEM, mais je ne sais plus trop quoi. Donc faites-le par le biais de votre mairie, faites pression en tant que parent d'élève, en tant que AFCBE, faites pression. Et là, à ce moment-là, c'est la mairie qui prend en charge, je crois, 25 euros ou 50 euros, il y a deux trucs, hein. Il y a la musique et puis les images. Les droits d'auteur, voilà. Donc, vous faites payer ça par la mairie, et vous convoquez les parents d'élèves, vous convoquez les agriculteurs locaux. Et contrairement à ce que vous pensez, les agriculteurs ne sont pas opposés à la bio. Ils sont, comme tu disais tout à l'heure, soumis à des pressions politiques, économiques, et ils ont la peur. Ils ont la peur au ventre. Mais c'est les premiers malades de ces produits chimiques. Ce sont les premiers. Ah oui. Juste avant d'être à la retraite, j'étais dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'endroit le plus pollué de France. Ils sont tous malades et ils vont tous avec leur masque et puis leur machin et ils mettent des gens du gaucho et tout ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour le moment. On leur propose pas d'autre. La seule vraie solution, ben c'est le courage, c'est de se prendre par la main et de se dire stop, je suis en train d'en mourir, je ne fais pas mourir mes enfants et les générations à venir, j'arrête tout. Et puis de faire des groupements et puis de faire de la diffusion comme vous êtes en train de faire ce soir. Je trouve que c'est très bien. Donc je vous dis, moi je peux intervenir dans les classes, il y a du matériel, il y a des choses à faire avec les enfants, et souvent, par l'intermédiaire des enfants, on fait changer les habitudes des parents. C'est pas le contraire qui marche le mieux. D'abord, on le sait tous, parce que les premiers consommateurs, c'est les enfants. Et c'est souvent eux qui disent, ah ben, je préfère ça, je préfère ça. Alors c'est vrai que dans le film, on le voit très bien, cette cantine qui n'était pas du tout bio. Le maire est tombé malade, il a eu un cancer, et il a réfléchi, il s'est dit, c'est pas possible, je vous le résume. C'est pas possible, je mange beaucoup de légumes, comment se fait-il que je tombe malade? Et en fait, il s'est aperçu que les légumes qu'il mangeait, c'était tout sauf du bio. C'était les légumes qu'on nous présente dans les supérettes, les supermarchés, n'importe où. Donc, il consommait de ça. Beaucoup, très peu de viande. Seulement, voilà, il en consommait tellement qu'il bon, en est tombé malade. À partir de là, sa réflexion a été, bon, maintenant, il faut que je fasse prendre conscience. Le plus difficile pour lui, c'était aux agriculteurs. À ses agriculteurs, ses administrés. Et bien, à la fin du film, il l'a fait. Hein, ça a été fait. Et les gamins mangent bio maintenant. Que la pomme soit avec des asticots ou sans asticots, ils la mangent. Donc, c'est vraiment une histoire d'éducation. Voilà, ben, je compte sur vous si vous avez envie de...
C'est pas très loin de chez nous, puisque c'est sur le département limitrophe.
C'est le Gard.
Et limitrophe de l'Aveyron.
Oui, c'est Barjac. C'est très proche. Et puis, je pense que si vraiment il y avait une grosse demande, ils se déplaceraient, parce que ça me suffit, se déplace justement pour montrer ce film et puis témoigner. Hein, c'est quelqu'un avec qui va.
Par rapport à ce que vous disiez, suite à la projection de ce film à Decazeville, il y a des parents d'élèves, des instits, au niveau des conseils d'école qui ont pris conscience du problème et qui ont demandé à ce que la mairie de Decazeville propose cette fameuse cantine plus ou moins bio un jour par semaine. Alors justement, je ne sais pas si vous avez été contacté, vous avez eu quelque chose.
On suit, du moins moi personnellement, je n'ai pas été contacté parce que je n'ai aucun moyen de pouvoir répondre à ça.
Je sais qu'il est étudié.
Ensuite, c'est un dossier, il y a 6 municipalités en Aveyron qui travaillent dessus. Il y a Saint-Afrique, Millau, je fais en remontant, Rodez, Bonnet-le-Château, Decazeville et Cap-de-Nac. Elles ont créé une association qui s'appelle Solitaire et qui est là pour coordonner plus ou moins ensemble ces actions-là. Quoi. L'objectif étant effectivement de répondre à la restauration collective en produits bio. Alors on se heurte à plein de petits problèmes, mais déjà la production qui n'est pas là.
Et est-ce que vous avez la capacité
Alors il faut la mettre en place. Donc il faut arriver à convaincre les agriculteurs de pouvoir, nous on appelle ça, c'est diversifier sur leur exploitation, diversifier des productions, sachant que en production animale, tout ce qui est viande, tout ce qui est produits laitiers, plus ou moins l'Aveyron peut répondre à l'heure actuelle, même si une grosse partie des élevages aveyronnais en bio ne valorisent pas leur production en bio, puisqu'on est sur des systèmes de production. On a une particularité, c'est que on est en altitude, donc les agriculteurs, on leur a dit que c'était impossible d'engraisser des animaux sans céréales, et donc on est parti sur un système de production qui est le fameux broutard, que beaucoup de monde a entendu. Et qui jusqu'à maintenant, c'était très bien parce que c'était l'Italie qui les achetait, et donc eux, ils les engraissaient là-bas avec du maïs en silage qu'ils faisaient, et puis ils consommaient cette viande. Ça arrangeait tout le monde, c'était très bien, quoi. Et puis les producteurs bio, des producteurs qui ont voulu se mettre en agriculture biologique, ont, par rapport à ce système de production-là, on ne peut pas valoriser les broutards en bio en Italie. Les Italiens, pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est des animaux qui sont élevés en bio, mais qui partent en conventionnel. Et donc, il y a toute une éducation, justement, par rapport à ça aussi. C'est de leur dire qu'il y a possibilité d'engraisser des animaux d'une autre manière qu'avec des céréales. On y arrive, quoi. Mais c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que Après... il y a tout ce travail là. Le projet que je vais parler tout à l'heure de ceinture verte, qui est plus lié, effectivement, quand on parle de ceinture verte, c'est plutôt pour des grosses agglomérations, mais qui pourrait concerner tous les tous les villages aussi, c'est de voir dans quelle mesure une municipalité qui souhaite absolument qu'il y ait des produits bio dans la restauration qu'elle met en place sur sa commune, dans quelle mesure elle ne peut pas faire en sorte d'installer des producteurs en leur garantissant d'acheter les produits et qui seraient là pour répondre à... Bon, toutes les municipalités ne peuvent pas faire, bien sûr, par exemple, du maraîchage. Sur les hauts plateaux de Brac, ça serait un petit peu compliqué, bien sûr. Mais ça, c'est des pistes de réflexion qui font qu'il faut réfléchir à ça. Il y a aussi la problématique que tous les restaurants collectifs, avant il existait plein de petits restaurants collectifs avec la cuisinière qui épluchait les légumes et qui faisait les petits repas. Ça convient très bien à l'agriculture biologique en fait. Et surtout la situation dans laquelle on est, où il y a très peu, où la production n'est pas si importante. Maintenant, on se retrouve avec des outils très centralisés où, par exemple, la cuisine de Rodez, qui je ne sais plus combien, c'est de milliers de repas par jour. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir accueillir des légumes, en fait. Tous les légumes doivent être de quatrième gamme, donc, c'est-à-dire, ils sont, la salade doit être lavée. Ensuite, les carottes doivent être épluchées, les pommes de terre elles doivent être lavées et épluchées avant d'arriver, parce qu'ils n'ont aucun outil pour donc tout ce qui se passe dans ces cuisines-là. Alors, voilà, il y a tout à construire. Est-ce qu'on reconstruit ce qu'on appelle des légumeries dans ces grosses structures, avec création d'emplois et tout ça, mais en général, les municipalités n'ont pas trop envie de se charger en coût de main d'œuvre. Ou alors, est-ce qu'on fait en sorte que des agriculteurs puissent répondre à ça mais bon, ça industrialise un petit peu l'agriculture. Donc, c'est vrai que c'est des questions auxquelles on est confronté et on n'a pas, comme ça, en claquement de doigts, les réponses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plus en plus de municipalités qui se posent des questions. Et puis, il y en a plein aussi de petites municipalités qui incorporent des produits bio dans les restaurants, des écoles et tout ça, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont le producteur à côté et puis ils achètent quelques produits et voilà, ils ont réussi à le mettre en place.
Justement, nous sommes... notre hôte participe à la restauration scolaire, je pense, puisque à Saint-Christophe, au moins je le sais, puisque la cantine municipale est alimentée par la Maison Rouroux. Et ça serait intéressant de savoir un petit peu, vous, votre position.
C'est bien que je ne vais pas commencer, parce que c'est quand même ici, c'est nous. Pour vous expliquer un peu, on livre dans différentes structures du canton de Marciac, un peu sur la zone de Lignac et de Saint-Cyprien, de différentes cantines. Nous, on travaille à les zones chaudes. Donc déjà, c'est produit le jour même, avec des produits frais. Et tout n'est pas frais, je ne vais pas vous mentir, de ce côté-là. Et on prépare le matin, c'est mangé à midi, contrairement à certaines, donc, toutes les structures du Grand Rodez. Là, c'est des zones froides. Donc, c'est préparé trois jours avant, il y a des barquettes de plastique, et bon, déjà il y a pas mal de déchets sur tout ce qui est emballage. Et donc nous, on travaille le jour même, donc le produit, donc, c'est quand même déjà niveau gustatif, c'est préparé le matin même, et mangé dans la journée. Après, vous parlez du bio, donc moi je me suis renseigné pour avoir des produits bio en grosse quantité, parce que ça représente par semaine, juste à légumes, il nous faudrait environ 250 kg de légumes. Préparé fini, hein. Production finie, donc ça représente peut-être 350 kg de légumes. Déjà, pour en trouver pour les cantines, c'est difficile au jour d'aujourd'hui de trouver toutes les semaines, je parle, 350 kg environ. Ça peut se trouver, actuellement ça existe, en surgelé. Je vous dis ce qui se passe. Hein. Après, il y a des productions, après volailles bio. Donc nous, le producteur avec qui on travaille, qui est en Dordogne, qui fait de la volaille fraîche, livrée fraîche, qui essaie. Donc, il est en train de mettre en place un agrément et une partie de sa production en bio. Ils ont plusieurs éleveurs. Donc, ça, il y a des produits, donc, petit à petit, je passe à la cuisine collective rentrée. Après, il se trouve aussi tout ce qui est grande structure, c'est-à-dire travailler à la maison froide, ils travaillent à des tarifs au ras des pâquerettes. Et là, c'est la concurrence impossible. Et je pense que eux, le bio, je ne pense pas que ça les intéresse parce que eux, ils cherchent un prix et quand ils achètent quelque chose, ça va être des produits surgelés et tout va être surgelé. Donc, je pense que eux, ce n'est pas eux qui vont apporter. Après, j'essaie d'en trouver de temps en temps. L'autre jour, j'ai trouvé des kiwis. Donc, le primeur m'a amené des kiwis, donc bio. Ben, c'était très bien, par contre, c'était un peu paradoxal. J'ai regardé d'où il venait de Nouvelle-Zélande. Donc le bio n'a rien à faire. Je préfère dire que tous les produits bio qui sont en France devraient être produits que sur le territoire français. Ou faire je pense que si on partait du principe de faire peut-être, au lieu de. Enfin, là, c'est le bio, hein, c'est de faire déjà une agriculture raisonnée, c'est-à-dire de travailler avec des produits déjà locaux et bio, enfin, c'est-à-dire voilà, de pas faire du bio, mais qui viennent de l'autre bout du monde. Là, c'est avec le transport, avec tout ce que ça comporte, à l'arrivée, le bio, il perd bien de son genre. Mais après, si on pouvait trouver localement des productions assez importante. Hein. Je vois un chou-fleur, un brocoli, un carotte bio, ce serait vraiment parfait parce que si elles étaient du bois, le coût de transport serait minime, mais ce serait vraiment très très bien. Un peu au jour d'aujourd'hui, pour trouver. C'est-à-dire, des yaourts, on trouve des yaourts bio, des petits suisses bio. Après, le problème, c'est un coût aussi. Parce que c'est un coût aussi pour toutes les municipalités. Après, ça inclut aussi sur les parents un prix, même si ce n'est pas des tarifs importants, je veux dire. Mais ça représente quand même quelque chose. Mais pour, par exemple, des yaourts, on en trouve, mais c'est. C'est le double, en prix, c'est le double. Pour donner une idée, un yaourt nature, non sucré à classique à 10 centimes, en bio, vous l'aurez à 22, 23 centimes. Mmh. Voilà. C'est surtout ça qui. C'est-à-dire qu'après, je pense que. À un niveau pour l'équité. Parce que là, ça travaille avec des marges qui sont très très réduites. Mais après, nous, je pense que le but. Surtout nos petites structures, parce que vous parliez avant, quand j'étais bouddhiste, c'était pareil. À l'école Beaujou, à l'époque, c'était une dame du village qui venait le matin, qui préparait à manger, qui était super bon. Ce que nous, on préfère ici, c'est le même principe, à une partie un peu plus grande, mais toujours à l'important de la saveur, chaque fois demander tous les produits qu'on prépare ici. Mais après, j'ai bon espoir que dans les. 5-10 ans qui arrivent, quoi. Je dirais maintenant, je préfère dire 5-10 ans parce que je ne peux pas dire dans un an on sera tout bio. Je pense qu'à terme, nos petites structures, nous, on arrivera plus facilement à se mettre au bio que des grands groupes Sodexo ou Rest, qui eux sont les champions de faire le moins cher possible. Donc eux, ils font le moins cher, mais ils le font à tout niveau. C'est-à-dire, ils vont acheter des légumes les moins chers, ce ne sera pas les légumes bio. La viande, ce ne sera pas la viande bio. Donc, mais je pense que petit à petit, nous, les petites structures. Local, on pourra arriver à acheter de l'eau à des producteurs, à des primeurs, en volaille, en poisson. Je pense que c'est une demande aussi qu'on a des mairies. Hein, qui,
oui, justement.
Indirectement vis-à-vis des parents, je sais qu'il y a des parents.
C'est peut-être intéressant que vous nous disiez aussi dans vos relations avec ceux qui vous donnent les ordres. Si vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a une évolution de la part donc des mairies et éventuellement si vous avez aussi rencontré des pressions de parents d'élèves sur les mairies pour cela.
Ce n'est pas des pressions, c'est des attentes dont nous on essaye autant soit peu de pouvoir répondre à ça. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait une bonne année que je fais des démarches auprès de nos fournisseurs parce que bon, on ne peut pas cultiver par un jardin énorme. Pour les cantines, ce serait le top si on pouvait avoir un champ énorme et aller chercher. Bon, mais après, là, c'est quand même ça reste difficile. Mais après, si au niveau départemental ou même régional, on trouvait des grandes cultures bio pour les collectivités, ce serait génial quoi, de trouver, dire on commande, je sais pas, pour la semaine prochaine, 5 kg de carottes ou 120 kg de carottes pour les cuisiner. Ce serait, parce qu'après, après, c'est juste une volonté pour éplucher, donc ça ne pas. On sait faire, quoi. C'est de trouver des quantités importantes de légumes et toutes les semaines.
Je n'en doute pas parce qu'on est confronté à cette problématique depuis bien longtemps. C'est-à-dire effectivement la production, la demande des consommateurs tels qu'ils soient. A été exponentielle et était beaucoup plus importante que la production. Et donc la production est beaucoup plus lente à se mettre en place, d'autant plus qu'avec tous les petits problèmes que j'ai cités auparavant et tout ça, qui font que ça va encore moins vite que ce que ça pouvait être. Quoi.
Mais après le coût pour la volaille, c'est pas forcément pour l'État. C'est bon pour en trouver, surtout parce que si vous prenez une volaille bio, elle ne rend pas l'eau que va rendre un poulet industriel qui va réduire de moitié. Donc à l'arrivée, si vous achetez quelque chose qui fait 100 grammes, à l'arrivée, il y a 90 grammes. Si vous achetez quelque chose qui fait 100 grammes dans l'intensif, à l'arrivée, il sera de 50 grammes. Donc à l'arrivée, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est quelque chose qui est sain, qui a été préparé, et pas beaucoup d'eau comme quelque chose qui est express. Donc c'est là où je pense que c'est pas forcément sur le tarif, c'est sur l'approvisionnement au jour d'aujourd'hui. Et j'ai bon espoir que petit à petit, les filières vont se mettre en place. Et après, il y a, peut-être dans 5 ans, il y aura des, je sais pas, des plantains qui passeront, qui font que du bio, mais ils géreront de A à Z la production, et après la livraison. Mais je pense que ça se met petit à petit en place, mais c'est sûr que c'est pas évident de trouver. Mais c'est pas le coût, il y a un petit peu d'écart, c'est normal, parce qu'il n'y a pas le même fonctionnement, hein, comme madame en parlait tout à l'heure, mais je pense que dans 5 ans, 10 ans, enfin, oui, dans même pas 10 ans, je pense qu'on mangera bio quasiment. Toute la filière sera bio, mais ce n'est pas du droit de même, parce que c'est dur à mettre à chemin. C'est heureusement que c'est facile.
Après, par rapport à pas, du moins, ce auquel ça me fait penser, c'est y en a certains aussi qui disent ça, mais qui disent mais dans quelques temps il y en aura beaucoup plus, donc ça sera beaucoup plus accessible, ça sera moins cher, et donc on pourra plus l'intégrer, ça marchera mieux, parce qu'à l'heure actuelle on ne peut pas trop l'intégrer, du moins dans certaines restaurations collectives, où soit dit en passant, le prix d'un repas est pas très très élevé, le coût matière il est ridiculement bas, quoi, en fait. Ça tourne entre 1,20€ et 1,50€ suivant certaines cantines, quoi, en fait, quoi. Donc c'est pas très très élevé. Et j'ai perdu mon fil.
C'est quoi 1,50€
le coût matière, en fait. Le coût matière dans un repas de restauration collective, par exemple à Rodez, Toulouse, ou dans les gros trucs comme ça. C'est le coût matière et c'est le coût qui est supporté en général par les parents d'élèves. Et après, il y a le coût de l'investissement, de tout le reste et tout ça, qui est de l'ordre de 4,50€. Donc on se retrouve à plus ou moins à des repas qui coûtent dans les 7€ par là. Et dans les 7€, il y a 1,50€ de coût matière. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Tant pis, c'est pas grave.
C'est sur le biologique qui allait venir dans les cantines et que la personne
simplifiée. Ouais, ouais. Donc ça,
je sais pas, après, voilà.
Ah, il y a les prix
à l'époque. Oui, dans certains, oui, effectivement, merci. Il y en a certains qui disent que les prix, justement, de par la généralisation et le fait qu'il y en aura de plus en plus, les prix vont baisser, vont être plus accessibles, donc le bio sera entre guillemets moins cher.
Mais
moi je ne le souhaite pas, en fait, parce que je à l'heure actuelle, on considère que on arrive à vendre nos produits à un juste prix, quoi. Donc à partir du moment où on arrivera à nous les faire baisser, ça veut dire qu'on va y perdre quelque chose, quoi. Donc si on y perd quelque chose, à la limite, on le laissera tomber, parce que là, il faut quand même, on veut la voiture, la piscine, et la vie, oui, non, bon. Ne fait-ce que tout le reste. Non, on veut quand même vivre décemment de notre métier. Et les gens qui, justement... À l'heure actuelle, les gens qui produisent de l'agriculture biologique ont encore le privilège de pouvoir vivre décemment de leur production la plupart du temps, dans les situations où tout n'est pas contractualisé. Les céréales, un céréalier qui fait des céréales arrive à les valoriser à un juste prix sur une exploitation et pas à un prix ridiculement bas. Comme est le cours mondial ou comme se basent les autres céréales. Un producteur de lait qui fait de la transformation fromagère arrive à vendre ses produits à un prix qu'il considère juste, et quelqu'un qui fait des colis de viande et qui les vend aux consommateurs, et ainsi de suite, arrive à les vendre à un prix qui lui permet de vivre décemment. À la limite, il ne faut pas souhaiter que les prix baissent. Il faut arriver à... Moi, je dis qu'il faut arriver à souhaiter que... À accepter que... Par contre, je suis d'accord. C'est un grand manque.
Mais c'est pas que la concurrence est arrivée, que ce soit... Que la filière... Non, c'est d'avoir quelques-uns pour avoir le choix. même aujourd'hui, enfin, on est libre dans des ensembles, j'adore plus les pâtes, la purée, que les brûlis, même pour les pâtes à bio. Tous ces produits-là, c'est difficile encore. Même les airs, les extrêmes, ne le mettent pas là-bas. On commence, là, ça fait un an et demi qu'on commence à recevoir des prospectus, en disant, hop, on crée de nouvelles gammes, donc au fur et à mesure, ça rentre quand même dans tous les secteurs, quoi. Pas que les légumes, dans toute la production, production de produits, pour pouvoir trouver tous les produits qu'on nécessite.
Oui, pour 15, imagine, enfin, on prend un smicard qui gagne 1000 euros, il y en a plein de gens qui gagnent 1000 euros par mois, puissent manger correctement. Moi, je vois que deux solutions. Soit il faut qu'ils gagnent plus, donc il faut repenser le travail, le salaire. Repenser le salaire, repenser la répartition des richesses, parce que qu'il n'y ait plus de gens qui gagnent 1000 euros aujourd'hui avec le niveau de vie, enfin, avec l'état des prix actuel, et puis le prix de l'alimentation, on va dire. Donc, soit il faut répartir les richesses et remonter les salaires, soit il faut subventionner le bio pour qu'il puisse être accessible, c'est-à-dire qu'il faut une intervention de l'État, donc politique, sur le prix du produit pour qu'il redevienne accessible à tous. Donc moi, je vois que ces deux solutions-là pour arriver à ne pas se serrer la ceinture pour manger du bio.
J'ai pas de réponse. Mais moi, je trouve que, par exemple... moi, je trouve que... j'achète en bio et je ne me pose pas de questions sur le prix. Mais quand je discute avec des gens qui ont le loyer et qui payent un loyer, je trouve que les loyers sont excessivement chers. Est-ce qu'on se pose la même question que les loyers devraient diminuer, en fait ?
C'est plus facile de manger du bon bio que de coucher dehors, hein.
Ah, mais je suis d'accord, mais c'est la question de se poser des questions, en fait.
Mais vous-même, dans les interventions, vous dites, il faut savoir combien on est prêt à payer pour manger du bio. Mais il y en a, ils peuvent pas, c'est tout. Ils peuvent pas. Donc l'intervention de madame, là, elle est là, et 14 mars, bah oui, on y revient.
Mais le fait de subventionner les agriculteurs, du moins oui, et de les aider à produire ceux qui sont dans un système de qualité et tout, c'est un peu gênant, quoi. Du moins, moi, ça me gêne un petit peu, ça fonctionnalise un petit peu la profession. Et, mais moi, par exemple, j'ai très peu d'aide de la communauté européenne, donc au niveau agricole. J'en suis content, en fait. Parce que je trouve que mes collègues qui, eux, sont extrêmement liés aux aides, il suffit qu'elles arrivent un mois après, le paiement arrive au lieu d'être... Ils arrivent 3-4 mois après, c'est la catastrophe complète. Ça ne paraît pas sain, en fait. Alors après, effectivement, est-ce que, pour répondre à cette solution-là, à cette problématique-là, de notre côté, on ne peut pas tout généraliser et tout, mais j'en discutais avec... moi, j'ai mon salarié, je le paye juste un petit peu plus que le SMIC, mais pas beaucoup plus, donc je suis un mauvais patron, en fait. On en discutait, justement, de l'alimentation et tout ça. Qui a la possibilité, je ne dis pas ceux qui n'ont pas la possibilité, a la possibilité de faire un jardin et qui n'en font pas, en fait. Déjà, il y en a. Il y en a pas mal. Hein, des personnes qui sont effectivement ont des petits revenus, ont accès à un petit carré de... Mais symboliquement, rien que symboliquement, de faire quelque chose. Déjà, il y en a très très peu qui le font. Ensuite, la quantité, par exemple, de châtaignes qui ne sont plus jamais récoltées dans les bois et tout ça. Je veux dire, je le regrette un petit peu, mais de dire qu'effectivement, on ne peut pas se payer des trucs et tout ça, je l'entends. Mais d'un autre côté, il y a plein de choses qui se perdent et c'est perdu et on n'en fera jamais rien. Et ça peut être une réponse, même momentanée ou ainsi de suite. Mais il peut y avoir des petites réponses alternatives à des situations. Alors c'est vrai qu'un smicard qui est en pleine Toulouse et autres, effectivement, non mais je suis entièrement d'accord. À ce moment-là, il faut faire pression sur les municipalités pour effectivement peut-être mettre à disposition un petit lopin de terre, type jardin ouvrier, pour le faire. Moi je suis tout à fait favorable à ce truc-là. Et justement d'appuyer là-dessus. Donc, il semblerait que Rodez veuille le faire et est en train de le faire. Mais effectivement, redonner une part d'accessibilité à la terre pour essayer justement de répondre à ces problèmes-là. Quoi.
Heureusement que tu reviens sur la fin en disant c'est sûr qu'à Toulouse, ils ne pourront pas se nourrir que de châtaigne. Il n'y a pas de châtaigne là à Toulouse, t'es peinard. Il faut monter loin pour aller chercher. Donc, je te comprends que tu reviens vite en arrière en disant ils ne pourront pas. Là.
Et puis là, on ne peut pas venir en train de chercher à ce moment-là. Donc,
le fait est que la population actuellement en France n'est plus rurale. Elle habite dans des villes. Comment vous nourrissez les villes? Alors quand l'idée de subventionner une partie de l'agriculture naturelle ou bio, un peu comme on veut, parce que pas rester sur le mot bio, mais un mot peut-être qui veut dire bio, mais qui le contourne, enfin bon, peu importe. Est-ce que peut-être la subvention devrait être pour le démarrage, pour inciter, pour que le jeune puisse, le jeune, ou pas forcément le jeune d'ailleurs, qu'une personne puisse s'installer en structure naturelle, arbre et joule, là, il a besoin de 2 hectares, et bon, lui dit, tu les as pas, la mairie te les met à disposition, pendant 20 ans, tu ne paieras pas un seul centime de loyer, et tu auras 2 hectares de carottes pour rebours. Le mec, il est subventionné, entre guillemets, il ne paiera pas de loyer sur les 2 hectares. Bon, après, il y a l'eau pour arroser ses carottes. Et bien, la mairie lui dit, pendant X temps, tu ne paieras que la moitié de l'eau, parce que nous, on a décidé, la mairie, de t'aider comme ça. Donc, c'est des subventions détournées. Et là, où on va revenir un peu sur l'autre concurrence, comme toi, t'es châtaigne, le mot de concurrence lâché tout à l'heure, qui a, pareil, rattrapé le coup pour dire non, c'est pas concurrence que je voulais dire, c'était pas vous mettre en concurrence, il est lâché quand même ce mot, comme le mot châtaigne. Dans nos têtes, c'est clair et net, si vous pouviez être en concurrence, même s'il est revenu sur les propos, il est quand même lâché. Si vous pouviez être en concurrence un petit peu entre vous, ça pourrait faire baisser les prix, mais j'ai pas voulu dire que les prix, il faudrait peut-être plutôt qu'il y ait plus de production. C'était tout à fait juste ce que tu as dit, il faudrait qu'il y ait plus de production, mais pas forcément faire baisser les prix à ceux qui fabriquent, qui produisent. C'est tout à fait juste, et c'est vers ça qu'il faut aller. Qu'il y ait plus de production en maintenant des prix à la hauteur de ce que ont besoin les gens pour se nourrir et de payer un salarié plus que le SMIC, plus 10%. Et là, on commencerait à avoir une société juste, dynamique, avec des aides pour quelqu'un qui veut s'installer, etc. Est-ce que la municipalité de Brouilly-Joule, si elle installe quelqu'un, il n'y a pas là le maire, mais ils ne sont jamais là les maires, on dirait nous qu'on fait, c'est bien dommage. Est-ce que les municipalités, en mettant à disposition et en donnant une certaine somme d'argent sous forme de subvention, ne seraient pas, dans le cas de la concurrence libre et non faussée voulue par Nice, Lisbonne, Barcelone entre les deux, et le prochain qui va nous arriver, est-ce qu'il ne serait pas attaquable par une Europe?
C'est une question à poser.
Parce que moi, je serais maire, moi, je referme toutes les portes du siècle, tout le temps. Je vais me faire attaquer par une commission européenne ou par un préfet qui me dira que je n'ai pas le droit. Les préfets sont très forts pour interdire certaines choses, même si après ils ont tort. Et peut-être, je ne dis pas que j'ai la vérité, je ne dis pas que je détiens c'est pas un savoir que je pose des questions. Et est-ce que nous, à ce moment-là, on n'a pas posé d'autres questions en dehors et au-delà de dates type 14 mars? C'est-à-dire que c'est pas un coup près. On n'est pas le 14 mars aujourd'hui, et après le 14 mars, il y aura le 15, 16, 17, 18.
Mais j'espère.
Donc on a tout intérêt à ne pas se réunir que les derniers jeudis de chaque mois, peut-être tous les jeudis, que ça grossisse ce type de discussion, de débat, parce que c'est de là que naîtront des envies, des volontés, des désirs, ce qui fait de l'être humain, c'est qu'il a des désirs, pas l'acheter la Wi-Fi, l'appeler, la machin, tout à fait, des désirs pour avoir une société plus juste, meilleure, pour l'ensemble de la population, et pas que les petits environnés qui pourront avoir 10 mètres carrés de jardin.
Oui.
Je ne vais pas monopoliser non plus. J'apprécie énormément tes questions. Je pense qu'il faudrait que tu viennes demain, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai des choses à te proposer. Pas moi, mais eux. Bon, c'est vu. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on se réapproprie son droit à la parole. On est soumis, on est en Aveyron, d'accord, on est des moutons, d'accord, on n'est pas obligé de rester moutons, on peut réagir. Voilà quoi, donc vous êtes là ce soir, c'est formidable, il y a une super dynamique qui s'est créée, on a fallu plus loin, quoi. Maintenant, il faut se remettre, comme tu dis, plus tous les jeudis ou tous les je ne sais pas quel jour, s'associer, faire pression, et si les maires ne sont pas là, et si la presse n'est pas là, et si tous les médias ne sont pas là, eh bien, il faut les forcer à venir. Il faut les acculer à des situations, ils ne pourront pas tout le temps se défausser sous prétexte que c'est...
Je rappelle que le dernier jeudi en question s'appelait Jardin confisqué, Jardin partagé. C'était donc le 28 janvier à Marcillac, puisqu'à Marcillac, il y a un sujet brûlant à l'heure actuelle. Des jardins et des surfaces de jardins qui sont cultivés depuis le XIIIe siècle sont à l'heure actuelle visés par la municipalité et par une préemption pour... sans doute, transformer une partie de ces surfaces en parking, avec une petite passerelle au-dessus du créneau, et transformer le reste en zone à construire. On peut se mettre aussi toutes les associations dans la poche en disant « on va vous construire la maison des associations, par exemple, et donc on va tout bétonner ». Eh bien, ça, il y a des gens qui, à l'heure actuelle, disent « non, on ne veut pas tout bétonner ». Il y a des gens qui cultivent ces jardins. Il y a des propriétaires âgés qui ne veulent plus le donner en location parce que, bon, c'est pas pratique. Mais pourquoi ces surfaces-là, et il y a quand même une surface conséquente, ne seraient pas soit un jardin ouvrier, entre guillemets, jardin partagé, soit carrément à dire, eh bien, c'est un premier pas, on va essayer d'implanter là, puisqu'on a fait préemption, si on fait préemption, c'est sûrement qu'on a des projets derrière, mais que notre projet évolue et qu'on puisse installer un maraîcher biologique là-dessus. Pourquoi pas ? La terre est largement reposée, sûrement, n'a pas fait l'objet de pesticides depuis un grand nombre d'années. Mais donc, je veux dire que les jeudis, ils n'ont pas besoin d'être tous les jeudis, mais ils abordent effectivement très régulièrement des sujets chauds. Je me souviens qu'on a abordé aussi le problème des supermarchés. Et bien, dans les supermarchés, on a vu très bien que les centrales d'achat, c'était ça qui foutait la merde chez tous les agriculteurs. Donc on n'a qu'à se prendre par la main pour aller toper nos élus. Ils y sont, nos élus, ils existent. Moi je suis bien placé pour en tant qu'association dans des luttes précédentes pour savoir que nos élus à l'heure actuelle sont vraiment des frileux. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, effectivement, pour être des éléments dynamiseurs dans une communauté. Là, le coût de la dynamisation, nous, on leur en donne des thèmes de dynamisation, mais chaque jour. Hein. Enfin non, pas chaque jour, excuse-moi. Chaque jeudi, dernier du mois. Mais non. Moi, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est plus d'une fois, on s'est fait soi-même, donc les organisateurs, le reproche de ne pas arriver à concrétiser des choses. C'est-à-dire qu'on parle, on sensibilise. Donc, mais là, on a du concret. Si on se retrouve effectivement avec une association qui est en train de se monter sur les jardins de Marcillac, dans le bureau de monsieur le maire de Marcillac, peut-être qu'effectivement, il va trouver qu'il commence à me faire suer cela. Et il faudrait peut-être réagir autrement qu'en disant, ben, je vais continuer parce que j'ai mon petit projet de parking. Ça permettra, le jour du marché, que les gens viennent, se garent. Bon. Mais c'est un autre problème. Il faudrait revoir le plan de circulation de Marcillac, peut-être. Le plan de parking occupé par des garagistes. Mais bon, tout ça, on peut en trouver. Si on réfléchit un petit peu, on peut en trouver des solutions. Mais il faudrait que nos élus s'en emparent. Et il se trouve que nous sommes traités d'emmerdeurs. Nous avons été traités de soviets qui s'éclairaient à la chandelle quand on a voulu faire enterrer une ligne électrique. Vous êtes des soviets qui s'éclairent encore à la chandelle. Et voilà, voilà le type de réflexion d'un homme politique éminent du Vallon à l'époque.
Mais qui a voté pour lui?
Justement, nous ne sommes pas assez nombreux pour qu'effectivement il y ait des changements dans ce sens-là.
Enfin, on a eu pour l'histoire des jardins, on a eu 400 signatures sur la lettre qu'on a fait passer. On aurait pu en avoir beaucoup plus, après c'est du temps aussi. Et le projet maintenant, c'est de se monter en collectif. Donc, ça va être décidé dans les semaines à venir pour voir le problème des jardins et plus globalement justement le problème de l'urbanisme à Marcillac et d'essayer d'aller proposer ça, de trouver un écho chez les élus. On verra ce que ça donnera.
Alors, je dois vous dire aussi qu'en tant qu'association, nous savons très bien qu'à l'heure actuelle, il y a PLU à réévaluer, à changer sur, je crois, 5 communes du canton.
7.
Bon,
6. 6 peut-être. Si Noviel s'est joint.
Noviel s'est joint. Ça fait 7. On arrive à 7. Ben, est-ce que vous avez un élu qui a organisé une réunion publique pour dire que le PLU de la commune devait être changé dans les 6 mois qui viennent? Bon, et alors, qu'est-ce qu'ils font ces élus?
Il coupe, il tranche. Discrètement.
Bon, à l'heure actuelle, on peut vous dire qu'il y a des bureaux d'études qui ont été commis pour effectivement étudier les PLU et qu'ils ont fait des propositions. Et on sait très bien que sur Marcillac, il y a des propositions faites par le bureau d'études qui ont amené, au moins oralement, un veto de la mairie de Marcillac. Parce qu'ils avaient envie de conserver effectivement ce petit côté verdure dans Marcillac qui se trouvait être en bordure du créneau. Les jardins, effectivement. Donc, ça marche à l'heure actuelle. Vous avez eu ça? Ah, mais peut-être que. Oui. Mais non, mais ça fait plaisir de le savoir. Et en plus de ça, on est sur votre commune. Mais c'est vrai que essayez de convaincre peut-être vos collègues élus d'autres communes pour qu'ils les fassent, ces réunions. Parce que c'est sûr qu'elles vont arriver, ces réunions, sans doute, elles vont être proposées au moment où tout sera bouclé, où on ne pourra plus rien faire. C'est-à-dire qu'une partie de la population sera... Oui, ceux qui n'ont pas, cours dans les mairies, ceux-là, ils seront exclus du choix possible de dire « Ah, mais il y a peut-être une autre solution. »
S'il y a des réunions publiques qui sont obligatoires, de toute façon, dans ce genre de...
Mais une fois que c'est bouclé...
Non, mais justement, c'est le collectif qui va se monter, et là aussi, pour informer. Et c'est là, justement, qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui prennent la parole, justement. Pour que ça ne soit pas tout seul, toujours le même collectif, ou que ce collectif soit le plus large possible, pour pouvoir justement, en réunion publique, influencer les décisions.
Nous, la mairie de Clairvaux nous a passé l'information dans toutes les boîtes aux lettres, plus d'informations à la presse de la réunion, avec la Chambre d'agriculture, le
bureau d'études.
Le bureau d'études. Donc, ça a été diffusé chez nous. C'est pas comme... Après, je ne sais pas.
Moi, je n'ai pas eu ça encore dans ma boîte aux lettres. Or, ça marche en parallèle obligatoirement.
C'est obligatoire.
Ça marche pas.
Ça faisait partie du cahier des charges.
À Marcillac non plus. Voilà. On peut continuer sur le thème plus.
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende que nos élus se bougent. C'est à nous d'aller bouger nos élus. Et si les élus ne bougent pas, c'est que nous, on ne bouge pas. Il faut aussi se prendre en main. Il faut aussi qu'on arrive à se prendre en main. On reste responsabilisé par rapport à la vie de la collectivité et à l'intérêt général.
Pour revenir au bio, là, il y a une nouvelle loi qui va passer, qui va un peu baisser les contraintes, je ne sais pas exactement dans quel cadre, mais qui va baisser un peu les contraintes du cahier des charges des producteurs bio, au bout des éleveurs bio. C'est quoi, grosso modo, le principe? Est-ce qu'on risque d'avoir une
Ça, c'est effectif depuis le 1er janvier 2009, en fait. Donc, il n'y a plus rien qui va baisser pour l'instant. Ça a déjà baissé. Non, ce qui se passe, c'est que ça fait partie. Il y a un cahier des charges. L'agriculture biologique est régie par le cahier des charges européen, puisque on est en Europe, on est en France, mais c'est en Europe. Donc c'est le cahier des charges européen. d'exister un cahier des charges français, qui a été un cahier des charges bio français, pour les productions végétales, pour les productions animales, notamment. Et pour les productions végétales, il a servi plus ou moins de base au cahier des charges européen. Le cahier des charges animal a plus ou moins servi aussi de base, mais était beaucoup plus laxiste que le cahier des charges français. Donc il existait le cahier des charges européen qui régit toute l'agriculture biologique depuis, je ne sais plus, 1995, un truc comme ça. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelait le REPAB. Le REPAB, c'était le règlement européen d'agriculture biologique, le REPAB-F. Donc, il s'appelait, c'était français, c'était, il y avait des annexes dessus où, sur le chargement des animaux, sur la part de l'ensilage, ou ainsi de suite, tout ça, qui était beaucoup plus restrictif que le cahier des charges européen. Dans le cadre d'une harmonisation au niveau européen et puis de libre concurrence, il a été décidé que le cahier des charges européen allait être revu pour la libre concurrence, ainsi de suite. Et le premier article du cahier des charges européen, c'est que nul cahier des charges nationaux ne peut prévaloir, en fait. Donc l'article 1 empêche que la France ait un cahier des charges plus restrictif. Ça n'empêche qu'il existe des labels, Nature et Progrès, Demeter notamment. Après, il y a Bio Franc, je ne sais pas où. En Bretagne, ils en ont aussi un autre, beaucoup plus local, qui sont des labels, plutôt des labels, genre label rouge et tout ça, quoi, mais liés à l'agriculture biologique, et qui, eux, ont la possibilité d'être plus restrictifs. Alors, qu'est-ce que c'est qui a changé? Alors, je n'ai pas la liste là, mais effectivement, le chargement des animaux est un peu plus... on peut mettre un peu plus d'animaux au mètre carré. L'utilisation de l'ensilage est autorisée, alors qu'avant, il était... je crois que c'était de 25 ou 50%. 50% était autorisé, maintenant on peut aller à 70-80%. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre? Il y a des petites choses comme ça qui ont effectivement...
L'équipement antibiotique,
hein. Alors, je ne pense pas au niveau des traitements antibiotiques, mais c'est possible, moi je ne le connais pas. Alors après, le cahier des charges, à quoi est-ce qu'il sert? Il y a plein d'agriculteurs bio, et la plupart des agriculteurs bio qui sont en activité à l'heure actuelle, font une agriculture, on n'a pas le cahier des charges sous les yeux en disant on ne peut aller jusque là, on va y aller quoi en fait, et ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. En général, on fait l'agriculture que l'on considère juste, il y a des contrôles qui sont faits et qui nous remettent dans les clous quand on dérape. Donc ce changement au niveau des cahiers des charges européens n'a pas changé grand chose pour le producteur bio local. Il va plutôt changer éventuellement pour les gens qui vont s'installer et à qui on aura mal expliqué la chose et qui seront plutôt dans un système intensif d'agriculture biologique, donc pour essayer d'optimiser au maximum les possibilités. Ce qui va à contresens, par exemple, le surchargement des animaux va à contresens d'une diminution des produits vétérinaires. Donc à un moment donné, on comprend vite qu'il y a la nécessité, quand on pose la question et quand on vit l'histoire un peu plus longtemps, on s'aperçoit qu'il y a un espace vital nécessaire pour les animaux qui fait qu'on va diminuer les charges vétérinaires qui sont beaucoup plus onéreuses que ce qu'on peut gagner en ayant un chargement beaucoup plus important. Donc ça on arrive à le comprendre progressivement, mais c'est vrai qu'au départ, les dés peuvent être un petit peu faussés. Et puis, le problème qui est mis en avant, surtout, c'est justement par rapport à cette libre concurrence, c'est-à-dire les produits qui viennent d'Europe et qui viennent d'ailleurs, qui sont régis par... nous, on a la culture du cahier des charges français qui est un peu plus restrictif. On ne peut pas l'afficher, sauf si, effectivement, on adhère à des labels. Et puis, il y a la concurrence qui va arriver, par exemple, d'animaux qui vont arriver de Roumanie ou je ne sais pas où et tout ça, qui, à la limite, peuvent être avec le cahier des charges européen à la limite et donc avoir des problèmes justement à ce moment-là quoi, et à ce niveau-là quoi. Mais c'est effectif depuis le 1er janvier 2009. Alors il y a eu des pétitions qui sont passées sur Internet et des trucs comme ça, mais moi je veux dire, ça a le poids que ça a et c'était le vœu du commissaire européen à l'agriculture de faire ça. Quoi.
Est-ce que les contrôles sont nombreux?
Alors, les contrôles, ils sont au minimum de 1 par an. Et après, ils peuvent être beaucoup plus. C'est-à-dire, il y a un contrôle. Normalement, les légumes, il y a 2 contrôles par an. Un contrôle officiel daté. C'est-à-dire, je sais quand il vient. Il peut y avoir prélèvement, effectivement. C'est toujours pareil, les prélèvements coûtent cher, donc ça ne font pas beaucoup. Et ensuite, il y a un contrôle qu'on appelle inopiné. C'est-à-dire le contrôleur vient chez moi sans m'avertir. Ça, ils peuvent être beaucoup plus nombreux s'il y a suspicion de transgression de la part de l'agriculteur. Mais en général, la plupart du temps, c'est un contrôle, voire 2 contrôles par an, quoi. Dans lequel, la problématique, c'est que tout bon tricheur arrivera à tricher, quoi. Et voilà, quoi. Donc, le problème, c'est que comment faire pour arrêter les bons tricheurs? J'ai pas de réponse. Mais à partir du moment où les personnes sont convaincues de ce qu'elles font, et en général, quand on adopte le cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire. La rigueur que ça impose par rapport à ce qu'on est habitué à produire et à ce qu'on a appris dans nos formations, en général, on ne fait pas trop ça pour essayer de transgresser les règles, quoi, parce que généralement, on les perdait plus. Mais c'est vrai que n'empêche qu'il arrive toujours, ça fait toujours la une de certains journaux, puis c'est vite fait, c'est très bien de dire que. Ça y est, la filière blé est foutue, il y avait un producteur qui avait acheté du blé là-bas, tout ça. Bon, l'incidence, elle n'est pas. J'espère qu'elle n'est pas énorme, mais au vu des organismes certificateurs, il y a des problèmes. Hein, et ils ont à gérer plein de problèmes tous les mois, justement, de personnes qui dérapent un petit peu, mais vu le nombre. Il y a 300 producteurs bio à l'Aveyron, et s'il y en a 2 ou 3 qui sont concernés par l'histoire, c'est pas plus. Quoi. Donc, c'est dérisoire. Mais bon, des brebis galeuses, il y en a toujours.
Et la quantité de par exemple, sur 18 hectares, toi, tu vas produire une certaine quantité de légumes.
Je ne produis pas 18 hectares de légumes, déjà. Ah. Vas-y, continue.
Alors, je prends 1 hectare.
C'est plus raisonnable.
Tu fais un hectare de légumes, toi, en bio, et à côté, il y en a un autre en conventionnel, il va faire 1 hectare de légumes. Le bio, en quantité, va produire beaucoup moins, ou c'est... En quantité de légumes sur 10 ans, on va dire, en moyenne. Hein. Il va être il va prendre les maladies plus facilement, donc il va avoir parfois des baisses de production que l'autre pourra ne pas avoir, enfin j'en sais rien. Tu n'arrives pas concrètement à voir ce que ça fait comme en quantité de.
En rendement, oui, le rendement est relativement moindre, hein. On peut arriver à.
De combien?
Je ne sais pas exactement. Non, je dirais une bêtise en fait si je disais un chiffre.
Un semis de carottes, de moins, je ne pense pas que tu puisses dire qu'il va avoir un peu plus de maladies.
6 kilos.
Sur des céréales, sur des céréales.
Bon, moi je suis à peu près à 6 kilos de carottes au mètre carré par exemple, et je sais que dans les tabloïds de l'agriculture conventionnelle, on est à 8-9 quoi. Donc je suis facilement un tiers en dessous quoi. Après, en pomme de terre conventionnelle, on est au-delà des 40 tonnes hectares. Et en bio, si j'arrive à 25, c'est bien, quoi. C'est très bien d'ailleurs. Bon, après, on n'est pas du tout au même prix. Hein. Une pomme de terre bio, elle se commercialise à l'heure actuelle, on est à 95 centimes d'euros le kilo dans ces eaux-là. Et en gros, quoi, hein, directement chez le producteur. Et en conventionnel, c'est très très bas. Hein. On est dans les 50-60 centimes de francs, quoi, hein, je crois, le kilo. Donc ça n'a rien à voir. Donc un centime d'euros, ça fait 10 centimes d'euros, quoi, peut-être.
Ici, je lis que les rendements sont pratiquement comparables. Alors moi je comprends plus.
Eh bien écoutez, côté, moi je voudrais bien voir
c'est
ça.
C'est moins cher. Quand je pense à la caisse, je trouve que c'est plus cher. Là, je vois pourtant l'agriculture biologique dont les rendements sont quasiment comparables. Après, un autre document, je trouve que non. Alors moi, je ne sais pas. Il faudrait se mettre d'accord.
Moi, le document que j'ai, c'est non. Mais bon, après,
c'est
j'ai...
celui qui ne sait pas, hein, qui cherche l'information, il est un peu perdu. Quoi.
Non, mais ça dépend ce que tu prends en compte. Si tu prends que le coût de revient...
Ah, mais moi, je ne prends rien en compte. Moi, je cherche de l'information.
D'accord. Hein? Mais si tu veux réfléchir à pourquoi on dit que c'est moins cher avec les conventionnels... Mais c'est parce que déjà, il y a les subventions, d'accord ? Il y a tous les prix qu'on paye tous là en tant que citoyen français, quand on paye nos impôts. Il y a tout ça qui rentre là-dedans.
Moi, je suis d'accord.
C'est pour ça que c'est
moi, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il y a, c'est que le client lambda, quand il passe à la caisse, il voit bien que son panier, il est beaucoup plus cher.
Alors, de l'étiquetage,
donc,
il ne faut pas dire,
c'est moins cher. Il suffit, par exemple, de faire des repas équilibrés, comme j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un petit document. Ah non, c'est pas vrai ça. C'est pas comme ça qu'il faut expliquer. Parce que sinon, on ne se rend pas service.
De quoi ? Pour la bio, tu veux dire ?
Oui.
Non, mais la bio, déjà, c'est sûr qu'elle est un peu plus chère, mais elle est un peu plus chère concrètement. Mais après, quand tu
regardes. Mais à la convocation de ce soir, on pouvait dire que c'était pas plus cher. Il suffisait d'équilibrer ses repas. À la limite, c'était culpabilisant. Si on payait plus cher, c'est parce qu'on ne savait pas équilibrer leur repas. Non. Non mais moi je dis ce que j'ai vu, moi. Là je joue les cons, là.
Oui, d'accord. C'est parce que l'information...
Non, j'attire l'attention sur l'expression qu'on peut avoir pour essayer de convaincre les gens. Quoi.
On veut nous faire porter, on veut nous culpabiliser, mais nous-mêmes, il faut être
cohérent avec nous-mêmes. Hein? Là, j'ai pas eu le temps de le chercher, mais je voudrais savoir quel rendement on parle.
Pour le poulet, quand tu disais qu'avec un poulet, tu as beaucoup plus de pertes dans un poulet conventionnel qu'un autre. On n'a pas besoin d'en avoir plus.
Moi, je suis convaincu. Je reviens à l'expression de nos idées.
Mais
les mots, entre nos propres paroles, là, on dit que c'est quasiment comparable. Ben non, puisque là, on nous dit que c'est 30% de moins, ça.
Je te donne raison, parce que si on est porte-drapeau, si on est entre convaincu, c'est relativement facile et ce n'est pas constructif pour comprendre les choses.
Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais
tout à fait.
Ah, d'accord.
Non, je n'ai pas pris.
Et c'est aussi toujours une affaire de choix. Si tu veux à la fois boire du vin, fumer, partir en vacances, avoir une... rentrer dans la société de consommation, et en même temps manger bio, il y a un pic. C'est un peu difficile.
Mais si tu n'as pas
les moyens, tu fais des choix.
Il y a des gens qui n'ont pas le choix. C'est pas vrai. C'est pas toujours une affaire de choix.
Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est
un peu plus. Il y a combien de centaines, peut-être de milliers de chômeurs
qui avons le choix qui devons faire peser la balance. C'est nous qui avons le choix.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, mais pour ça aussi,
je crois qu'il faut pas...
En cohérence avec nos arguments, oui, c'est ça que je veux dire.
Je crois qu'il ne faut pas monopoliser le dialogue, quoi, je veux dire. Il faut aller un peu plus loin. Je vous signale, pour ceux qui désirent partir, j'en ai vu quelques-uns, qu'il y a un petit chapeau, qu'il y a une liste pour ceux qui veulent continuer à être informés sur les jeudis en question. Et par ailleurs, tu avais demandé la parole...
Oui. Vos semis, là, vos graines, elles viennent d'où et comment elles sont
Voilà quoi. De belles questions. Oui, d'où elles viennent? Alors, il y a plusieurs. Elles viennent de semenciers ou de personnes qui regroupent des semenciers et qui travaillent en agriculture biologique ou biodynamique.
Donc
on arrive à trouver. Il y a certaines variétés, par exemple, de tomates qu'on ne trouve qu'en graines non traitées, qu'on ne peut pas trouver. Parce que le paradoxe qu'il y a, c'est que le monde de la semence est assez compliqué. Il y a des semences qui existent et qui ont l'appellation semence amateur. Donc ce sont des semences qui peuvent être cultivées que par les jardiniers amateurs. Si moi je cultive ces semences-là, c'est des plantes issues de ces semences-là, et que par exemple je vends les produits sur les marchés, je suis hors la loi et je suis passible d'amende.
semence amateur, c'est ce qu'on a, nous, dans les RGT compagnie.
Non, c'est... Oui, entre autres, oui, certainement, mais bon, c'est l'appellation, en fait. Il y a des semences qui sont dites professionnelles, et parce qu'elles sont classées professionnelles, et que parce que des personnes ont payé l'inscription au catalogue officiel des semences professionnelles, elles ont accès au milieu professionnel, et les autres qui ne sont pas... personne n'a payé pour qu'elle soit dans ce catalogue-là. Elles sont dans un catalogue, lui, le catalogue jardinier amateur. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas le droit de les cultiver. Du moins, on peut les cultiver, mais on n'a pas le droit de les vendre. On n'a pas le droit de faire commerce avec les produits. Donc ça, c'est un petit peu le paradoxe. Donc après, il arrive sur par exemple, les tomates. La plupart des consommateurs, même en bio, aiment bien les tomates rouges, rondes. À partir du moment où ça a un petit peu de couleur, un petit peu de différence et tout ça, je veux dire, elles partent, mais beaucoup moins que les autres, quoi. Donc, il faut ménager le chèvre et le chou. Et pour arriver à vivre de ma production, je suis obligé de faire de répondre à tout le monde. Et donc, effectivement, il y a certaines variétés que l'on ne trouve qu'en non traité, mais qui ne sont pas issues de parents bio. Ça, c'est par exemple en tomate, moi ça représente un quart des tomates que je produis chez moi. Et après, il y a plein d'autres, toutes les autres productions, ce sont des semences bio, puisque maintenant on arrive à trouver des semences bio. Mais c'est vrai que la plupart des semenciers bio, c'est Hollande et Allemagne, quoi, en fait. C'est eux qui ont fait le plus. Alors après, en France, il y a un semencier au niveau professionnel qui existe, qui s'appelle SMBio, qui est dans le Gers, et qui, eux, produisent une partie de leurs semences, et puis une partie, revendent une partie des semences de semenciers hollandais ou allemands. Mais on arrive de plus en plus à en trouver, mais bon... Autant en légumes, on arrive à trouver des semences en bio. Après, autant tout ce qui est plantes fourragères, donc pour installer une prairie et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. On est beaucoup. C'est d'ailleurs ajouté après.
On peut faire le parallèle aussi avec le problème de l'énergie. On a en France des très grands semenciers, des semenciers mondiaux, on peut dire. Et en énergie, on a aussi des gens qui sont capables d'assurer un marché mondial de l'énergie. Quand on veut vendre des centrales nucléaires, c'est sûr qu'on a mis le poids pour ne pas faire de la recherche sur d'autres systèmes de production d'énergie. Et donc, qui, à l'heure actuelle, a le système industriel capable de monter, de fournir des éoliennes, par exemple, ou des systèmes photovoltaïques? C'est tous les pays qui n'avaient pas mis tous leurs œufs dans le même panier, nucléaire. Et donc, du coup, on trouve les Allemands, on trouve les Hollandais en énergie. C'est eux qui ont effectivement le marché de l'éolien ou des capteurs photovoltaïques. Mais donc, dans les semenciers, effectivement, on a des semenciers extensifs qui sont avec semenciers OGM et autres choses de ce type-là. En France, on est bien placé du point de vue mondial. Donc, on ne peut pas être bien placé aussi du point de vue semencier bio. Quoi.
Après, bon, il y a les internets et on arrive quand même à trouver les semences nécessaires la plupart du temps.
Oui, mais le marché bio a développé. Il faudrait aussi qu'il y ait les semenciers qui développent. Est-ce qu'il y a d'autres.
Oui, moi, je. Oui. Juste une question, supposons une parcelle, un hectare, qui depuis des décennies est cultivée en conventionnel, la personne qui l'exploite veut passer en bio. Cette terre, elle est gavée de pesticides, éventuellement, enfin de tas de saloperies. Au bout de combien de temps on peut considérer que la culture qui va être effectuée dessus sera de qualité acceptable?
D'un point de vue légal ou d'un point de vue
sous divers points de vue.
Divers points de vue. Après, ça dépend des analyses qui vont être faites dessus. Si elle est vraiment polluée par certains produits, il y a des analyses de sol qui peuvent être faites. Et puis, tant qu'on est en dessous ou en dessus d'un seuil, on ne peut pas avoir l'agrément. Ça, c'est pour des terres qui seraient suspectées, effectivement, d'avoir été conduites de manière très, très intensive. Sinon, mais le délai du cahier des charges, c'est 2 ans révolu. C'est-à-dire que c'est la culture de la troisième année qui peut être valorisée en bio.
La troisième récolte.
Alors après, il faut à un moment donné... un seuil, il faut des règles, et voilà, c'est celle-ci, quoi, en fait. En arboriculture, il y a un an de plus. Mais bon, après, de notre côté, ce qui se passe, c'est que il y a la définition de l'agriculture biologique, quoi, en fait. Qu'est-ce que l'agriculture biologique? Est-ce que c'est une agriculture de résultat ou est-ce que c'est une agriculture de moyens? Alors, nous, au niveau de notre association et donc le réseau que l'on est, au niveau de la FNAP, nous, on est dans une agriculture de moyens, c'est-à-dire qu'on considère que les gens qui cultivent doivent se donner les moyens de respecter le cahier des charges pour avoir une agriculture moins polluante. L'agriculture de résultat est liée de fait dans le temps et elle va s'inscrire. On n'est pas du tout, et on ne se sent pas, et on ne peut pas être responsable de nos voisins, de la pollution de nos voisins. Donc on essaye d'y faire attention, mais l'objectif, il est beaucoup plus global que le fait de considérer que les produits bio seraient, comme on peut l'appeler, des alicaments, donc des aliments qui on les mange, ça y est, on va être en bonne santé, parce qu'effectivement, ils n'ont aucun résidu ni rien. Je veux dire, ce que je disais tout à l'heure, l'atmosphère, elle contient des pesticides. Il suffit qu'il y ait une pluie qui tombe, les pesticides, ils vont être contenus dans l'eau de pluie, ils vont tomber sur les légumes qu'il y a dessous, qu'ils soient bio ou qu'ils ne soient pas bio. Un agriculteur qui utilise un pulvérisateur pour pulvériser des pesticides, il faut savoir que sur à peu près, je vous dirais un chiffre qui peut toujours être contesté, mais dans l'ordre des choses, celle-là, c'est que 70% partent dans l'atmosphère, 30%, non, 60% vont dans l'atmosphère, 30% sont lessivés, 10% sont effectivement sur la plante et ont un travail effectif. Ça, il faut le savoir, quoi, je veux dire. Donc, on arrive à un moment donné où moi j'ai des agriculteurs qui sont conventionnels à côté de chez moi, et il y en a, j'ai pas réussi à tous les convaincre, malheureusement. Donc effectivement, ils utilisent des pesticides, il y en a 60% qui vont dans l'atmosphère. Quand moi je suis j'ai le nez de plus en plus sensible, quand il passe un insecticide sur les pommes de terre à 1 km de chez moi, je le sens. Je sens le produit. Donc, je veux dire, si on veut vraiment une agriculture de résultat, où est-ce qu'on va produire de l'agriculture biologique? Où? Et moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur cette planète où on pourrait le faire en toute sérénité, quoi. Donc, effectivement, on a pris le parti que c'était une agriculture de moyens, et l'objectif est de généraliser ce type d'agriculture-là. Si on reste dans le cadre d'une niche telle qu'à l'heure actuelle on l'est, ou que certains pouvoirs publics veulent nous laisser, pour répondre effectivement à une clientèle qui a les moyens de payer, donc à ce moment-là, effectivement, on aura perdu notre pari, quoi, parce que effectivement, c'est pas ce qu'on veut répondre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est on a envie de généraliser ce type d'agriculture-là parce qu'elle est une réponse aux problématiques de l'agriculture à l'heure actuelle. Elle est là et elle peut répondre à des problèmes d'alimentation. On arrive tout à fait à bien nourrir beaucoup de gens avec ce type d'agriculture-là. Et on n'a pas vocation à aller vendre nos produits dans les pays du tiers-monde. Donc il faut arriver à ce que les produits du tiers-monde arrivent aussi à produire leurs produits là-bas. Nous, on prône l'autosuffisance alimentaire dans chaque pays, voire dans chaque région, voire dans chaque commune, si on arrivait à ça, à le décliner, quoi. Et l'objectif, effectivement, est une agriculture de moyens. C'est de dire, il faut arriver à ce que les gens qui tous arrivent à faire une agriculture respectueuse de l'environnement et des citoyens qui vivent dessus, quoi. Voilà pourquoi on ne s'est pas focalisé sur le fait de dire... Quand quelqu'un veut passer en agriculture biologique, effectivement, on va faire les analyses de terre. Tant qu'il est en-dessus de ce seuil-là, on n'a pas voulu aller au-delà du règlement, sachant que le sol, naturellement, arrive quand même en grande partie à se nettoyer. Ça prend plus de temps que 2 ans, je suis entièrement d'accord. Mais après, on ne peut pas laisser non plus... c'est la difficulté de laisser les agriculteurs pendant un laps de temps où, effectivement, ils sont obligés de mener une conduite agricole qui va prendre du temps, qui va avec des baisses de rendement, c'est clair, et tout ça, sans pouvoir le valoriser en bio pour espérer, au bout de 4-5 ans, pouvoir avoir l'accréditation bio parce qu'effectivement, il n'y aura pas trop de voisins qui... Je veux dire, ça ne nous convenait pas, quoi, en fait.
Je crois qu'on a fait quand même pas mal de tour. En plus de ça, tu as donné une bonne conclusion sur l'agriculture biologique, là. Et donc, est-ce qu'on en arrête là? Il est 11 heures passées.